Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 18 avril alors que, ben ça y est, l'attente est enfin terminée. Les séries éliminatoires sont à nos portes. Ça commence dès samedi avec les premiers matchs de la série Hurricanes Islanders. Match aussi des Maple Leafs contre les Bruins. Et ensuite, ben, on va avoir droit à deux mois de séries éliminatoires, le meilleur temps de l'année pour les amateurs de hockey. On va être servi. Et aujourd'hui, ben, bien évidemment, on en parle à l'émission. Là, on va vous offrir une analyse complète là, des duels de cette première ronde-là. On va vraiment passer chaque équipe en revue. Et on vous offre nos prédictions. Donc, tout ça, ça va être en deuxième partie d'émission. On va aussi parler, bien évidemment, de la nouvelle qui est tombée là, tout juste avant l'enregistrement du balado, c'est-à-dire qu'une équipe de la LNH va s'installer en Utah. Donc, toute nouvelle formation. C'est les joueurs des Coyotes de l'Arizona qui vont se joindre à cette équipe. Donc, qui changent d'adresse, les contrats ont été achetés. Donc, on va en parler, bien évidemment. Pour ce qui est des Coyotes, la formation, la concession tombe en dormance, donc il n'y aura pas de hockey l'année prochaine du côté de l'Arizona, peut-être pas pour les prochaines années, mais on verra peut-être que cette équipe va pouvoir éventuellement revenir dans le portrait dans les prochaines années, donc on va en parler là, aujourd'hui à l'émission. Mais pour commencer le balado, ben, on va tracer un bilan de la saison des Canadiens, je fais ça avec mes invités aujourd'hui pour lancer l'émission. Mais avant de se lancer, justement, comme c'est le début des séries éliminatoires, le balado, ben, ça sera plus à tous les mercredis comme c'est le cas en saison. On va plutôt essayer de vous offrir des balados, des épisodes là, entre chaque ronde là, quand c'est possible, bien évidemment. Là, parfois, ça s'entrecroise un peu, mais entre la fin d'une ronde et la suivante, on va avoir une émission, un balado, oui, justement. Donc, suivez-nous, honnêtement, sur les réseaux sociaux. Là, suivez-nous, LNH, LNH barre de soulignement FR sur Twitter, sur X. Ouais, Twitter, X, pas mal la même chose. Sur Instagram et sur Threads. Donc, pour être certain de ne jamais manquer un balado, si vous nous écoutez sur une plateforme Apple, Spotify, Google, peu importe, ben abonnez-vous, suivez-nous. Comme ça, vous êtes certain de ne jamais manquer un épisode lorsque celui-ci sera disponible durant les séries éliminatoires. On lance l'émission avec mes deux premiers invités. Vous les connaissez, ils sont toutes les deux semaines environ et parfois plus sur le balado. Jean-François Chaumont, Guillaume Lepage. Salut, JF.
Salut, Nicolas.
Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Vous avez, comme chaque année, célébré la fin de la saison des Canadiens hier avec le bilan de fin de saison, voilà, qui est toute une journée, bon, disons-le, qui est un peu... En bon français, là, ça s'appelle les poubelles. En français, en anglais, ils appellent ça « baggy day », la journée des sacs, mais en français, on appelle plus ça « poubelle » parce que c'est le bilan de saison, puis c'est encore plus difficile pour une équipe qui ne fait pas les séries éliminatoires, bien évidemment, comme c'est le cas pour les Canadiens, comme c'est le cas pour 15 autres formations dans la Ligue. Bon, là, on commence à avoir l'habitude des bilans hâtifs chez les Canadiens depuis le début de cette reconstruction-là, mais... Cette année, bon, disons-là, on a commencé, on a tenté d'être optimiste. C'est peut-être le bilan le plus optimiste des dernières années, là, disons-le. Et on a commencé tout avec une grosse nouvelle, c'est-à-dire on n'a pas prolongé le contrat de Martin Saint-Louis. On a exercé l'option qu'il avait à son contrat. On ajoute deux années de plus à son contrat. Donc, grosse nouvelle en commençant le bilan, là, messieurs.
Oui, grosse nouvelle pour le Canadien. Martin Saint-Louis, sans avoir un C sur son veston, à mes yeux, reste le capitaine. C'est celui qui mène ce bateau depuis le début de la reconstruction. Peu importe à qui on parle dans le vestiaire, que ce soit Nick Suzuki, que ce soit David Savard ou un plus jeune comme Juraj Slafkovský, ils vont tous mentionner l'importance de Martin Saint-Louis. Ils aiment sa vision, aiment sa façon de communiquer, sa façon de travailler. Donc, ça part bien. Est-ce qu'il y avait des doutes concernant le futur de Martin Saint-Louis? Absolument pas. Je crois que tant et aussi longtemps que Saint-Louis veut diriger cette équipe, pour l'instant, il n'y a pas de doute. Il reste l'homme de confiance de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Mais c'est une petite préoccupation qui s'envole. On règle un dossier avant même d'arriver au camp d'entraînement. C'est jamais bon non plus quand un entraîneur ouvre une saison avec une seule année de contrat dans ses poches.
Oui, puis c'est aussi vraiment un signe qu'on aime ce qu'on fait, de la manière qu'il éduque les jeunes. C'est qu'on le voit pour les trois prochaines années, prendre cette équipe-là avec tous ces jeunes louveteaux, puis en faire une meute solide et menaçante. Là.
Exact. Je pense que c'est le constat qui revient le plus souvent avec Martin Saint-Louis, c'est au niveau de la progression individuelle des joueurs. C'est là où il est vraiment très efficace pour relancer des joueurs qui cherchaient peut-être ailleurs. On pense à un Kirby Dack l'année dernière qui avait connu une bonne saison, un Alex Newhook cette année qui a été quand même plutôt efficace dans le rôle qu'on lui a confié chez le Canadien. Juraj Slafkovský qui, après une première saison en Dante, un début de saison cette année qui a été plus difficile, mais en deuxième moitié, il a explosé. Donc, on voit l'amélioration. Un Cole Caulfield aussi qui devient un joueur plus complet. À ce chapitre-là, il est vraiment très, très, très efficace, Martin Saint-Louis. Je pense que les doutes ou les critiques qui viennent le plus souvent, c'est plus au niveau de la structure de jeu. T'sais, on a parlé du format hybride en défensive et tout ça. Ce sont des choses qui peuvent se discuter aussi avec la direction, puis peut-être en arriver à des changements si on voit que le groupe n'est pas capable de s'adapter à la vision de Saint-Louis dans cet aspect-là. Mais la clé dans une équipe en reconstruction, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de tes jeunes éléments puis de les développer pour faire en sorte qu'ils vont devenir des joueurs d'impact dans ton équipe. Puis ça, Martin Saint-Louis le fait très bien.
Mais j'ai hâte aussi de voir la dynamique. Martin Saint-Louis, depuis le début, a quand même le beau rôle, le beau jeu. C'est celui qui prend une bête blessée puis il essaie de la guérir tranquillement, pas vite. Mais là, même Martin Saint-Louis le disait après le 82e match, il parle toujours de patience agressive. Mais là, il va peut-être avoir un petit peu plus d'agressivité dans sa patience. Il va y avoir aussi plus d'attente, plus d'espoir de voir cette équipe-là être dans le mix pour reprendre ses mots pour une place en série. Donc, j'ai hâte de voir comment Saint-Louis va réussir à effectuer ce virage-là. Puis, Guillaume parlait tantôt de le fameux système hybride en zone défensive qui souvent portait à confusion. Est-ce que c'est le système qui est compliqué? Est-ce que le Canadien compte sur trop de jeunes défenseurs? Ça peut être un mélange des deux. Mais le CH aura aussi besoin de s'améliorer grandement au niveau des unités spéciales. Mm-hmm. 17,5% supériorité numérique, 76,5% en désavantage numérique. Un vieux sage là, dit souvent que pour avoir une bonne équipe, tu dois avoir au minimum 100 quand tu additionnes les deux. Donc, le Canadien est encore loin de 20 ou de 80% en infériorité numérique. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis on avait posé la question, je crois que c'est le collègue Guillaume Lefrançois qui a posé la question à Kent Hughes et Jeff Gorton. Est-ce qu'on pourrait être tenté d'apporter un petit peu d'expérience au groupe d'entraîneurs? La réponse semble être non. On fera confiance encore à Alex Burrows, Trevor Letoski, Éric Raymond. Possiblement que tous les adjoints vont revenir en poste du côté de Montréal.
Bon, on en a parlé. On a tenté de faire preuve d'optimisme dans ce bilan-là, dans ce qui a été une saison. Au final, on termine 28e au classement. Là. C'est somme toute, c'est pas une bonne saison. Quand on regarde ça froidement, puis comme tu dis, Martin Saint-Louis a le beau jeu de dire oui, mais c'est une progression, puis c'est un chemin de croix vers ce qu'il y a de mieux. Bon, cet optimisme-là, bien évidemment, il vient au niveau du développement des jeunes. On a eu une belle émergence, Juraj Slafkovský, cette année. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. C'était avec vous, messieurs, que j'étais... Non, il y a deux semaines, je ne sais plus. Oui, c'est avec vous que j'étais, il me semble, il y a deux semaines. On a parlé de Slafkovský qui a bien émergé, qui a bien fini la saison. Mais ailleurs, vous voyez quoi dans ces jeunes-là? On a parlé de Newhook, on a parlé surtout en défensive, ces jeunes défenseurs-là. On a eu des belles auditions cette semaine. L'avenir, on semble être très, très, très optimiste à relativement court terme, je pense, chez les Canadiens.
Oui, bien, la fin de saison, les derniers matchs nous ont permis de voir un Lane Hutson à l'œuvre, un Logan Mailloux. Honnêtement, les deux ont été assez surprenants. Là. On en a parlé, moi puis JF, on regardait le match et Lane Hutson n'avait pas l'air d'un jeune garçon qui fait ses débuts dans la Ligue nationale. Là, il y avait une assurance, il y avait une confiance. Il faisait exactement, je peux pas dire que je l'ai vu jouer 175 matchs, mais je l'ai vu jouer dans les championnats juniors et tout ça. Puis c'est le même Lane Hutson. Il fait les mêmes mouvements sur la ligne bleue. C'est pas restreint dans ce qu'il est capable de faire parce qu'il est rendu au prochain niveau. Puis ça, c'est très positif.
Ce qu'on appelle edge work, là, son efficacité sur ses lames, là, je ne sais pas s'il y a un terme en français, là, mais particulièrement impressionnante là, sur sa manière de se déplacer sur la ligne bleue. Là.
Il est capable de tromper vraiment la défensive adverse parce que tu ne sais jamais de quel côté il va s'en aller Il ouvre ses hanches, puis après ça, ben il décide de quel côté il va, mais pour le joueur en défensive, c'est très difficile à contrer ce mouvement-là. Puis ça a été quand même.
On l'a vu contre Détroit, d'ailleurs, le but de Slavkovski, mm-hmm. ce qu'il a fait devant... je sais plus c'était qui le joueur des Red Wings devant lui, là, mais c'est il l'a carrément trompé. Il l'a hypnotisé, là, en quelque sorte, là, sur la ligne bleue.
Ouais, de mémoire, c'était David Perron. Mais Jay Pendolfo, son entraîneur avec les Terriers de l'Université de Boston, le comparait souvent à un garde au niveau du basketball. Il dit il a tellement brisé de chevilles. C'est rare que tu vois ça au hockey. Mais il est rapide, des petits mouvements. Guillaume parlait de la relève. Oui, c'est très encourageant. Lane Hudson, moi aussi, j'ai le même constat. Les deux matchs qu'il a joués, l'échantillon reste minime, mais c'est une très, très belle audition pour Lane Hudson. Honnêtement, je crois qu'il n'est pas loin d'un vestiaire de la Ligue nationale de hockey. Au prochain camp, il va cogner, puis il va cogner fort à la porte pour rentrer. Même histoire avec Logan Mailloux, qui a joué un peu plus que 20 minutes. C'est un défenseur qui s'est très bien débrouillé. Bon, c'est deux autres qu'on ajoute au groupe. Caden Goulet reste jeune. Arber Jackay est encore jeune. Jaden Struble, Jordan Harris. Il y en a beaucoup. Il y en a même trop. Puis si tu regardes, mais c'est pas une mauvaise chose. Il y en a trop, mais si tu regardes le portrait et dans le bilan, Kent Hughes a été très franc en disant qu'on va avoir besoin de s'améliorer offensivement. Et si le Canadien veut y arriver, il y a une possibilité de conclure une transaction. Tantôt, j'ai oublié Justin Barron dans la liste. C'est un autre jeune défenseur. Le Canadien n'aura pas le choix de possiblement bouger une, deux pièces de son casse-tête à la ligne bleue pour obtenir de l'aide à l'attaque. Parce qu'à l'attaque, oui, le premier trio est une belle histoire cette saison. Autant Suzuki, surtout Slavkovski et Caulfield, même s'il a moins marqué, à mon humble avis, devient un joueur de plus en plus complet. Il a quand même fini la saison avec plus que 60 points. C'est une progression dans le cas de Caulfield. Mais après ça, c'est assez désertique. Où le CH va prier pour que Kirby Dack, le genou, va tenir la route la saison prochaine. Peut-être un possible deuxième trio avec Dack, flanqué d'un New Hook à l'aile, mais il te manque quand même un autre ailier. C'est vraiment là que le Canadien va creuser pour s'améliorer.
Bon, justement, là, on a osé amener le mot en S en vue de la prochaine saison, c'est-à-dire les séries éliminatoires. On ne garantit pas une présence, mais on veut commencer à y penser. On veut commencer à être dans le mix, pour reprendre les mots. C'est quoi le plan à partir de maintenant?
Ben moi, je pense que, tu sais, on vient de parler des jeunes défenseurs. Ça fait beaucoup d'atouts, là, tu sais. Est-ce que c'est Marc Bergevin qui parlait de ses assets souvent? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'atouts dans le jeu de Kent Hughes. Selon moi, tu sais, ça peut servir de monnaie d'échange. Puis je pense que il va procéder à ça parce qu'il a avoué hier dans le bilan qu'il y avait eu des appels des agents, des jeunes défenseurs, tu sais, qui demandaient.
Se pose des questions, hein?
C'est ça, c'est quoi le plan? Est-ce qu'il va jouer un match sur deux, un match sur trois? Va-tu être un régulier? Tout ça. Donc les questions commencent à venir. Tu peux pas gérer une défensive avec autant de jeunes qui veulent faire leur place, qui veulent percer dans la Ligue nationale. Selon moi, c'est ça. Le bassin de jeunes défenseurs va servir à justement essayer d'aller chercher des éléments en attaque. Je pense que c'est la mission première cet été là, pour Kent Hughes, parce que comme Jean-François dit, c'est un peu mince à l'attaque. Si on est capable d'avoir deux bons trios pour enlever un peu de pression là, des épaules de Suzuki, Caulfield et Slavkovski, parce que pour l'équipe adverse, certains soirs, c'était pas très difficile à contenir là, le Canadien. On surveillait le gros trio, puis après ça, ben ça devenait mince. Donc, pour moi, c'est la première chose là, sur la liste en vue de cet été.
Mais ce que je retiens aussi du bilan, c'est oui, il y a un désir de s'améliorer, mais on ne voudra pas non plus déshabiller l'équipe ou y aller trop rapidement. Mm-hmm. Je pense pas qu'il faut que ça tende à un coup de circuit, à un grand chelem. On va continuer de jouer de prudence. On veut, du côté du Canadien, respecter le plan, c'est-à-dire toujours une vision à long terme et non pas à court terme. Et froidement, oui, le CH peut parler de progression, oui, le CH peut parler d'être dans le mix, mais quelle équipe de l'association de l'Est et encore plus de la métropolitaine sera plus faible la saison prochaine? Qui va être prête à céder son trône? C'est difficile. Les Bruins, les Maple Leafs, le Lightning, les Panthers et les autres équipes en lutte avec le tricolore. Techniquement, un jour, les Sénateurs vont être meilleurs. Puis même chose pour les Sabres de Buffalo, même chose pour les Red Wings. Le chemin ne sera pas facile, disons.
Non, exactement. Vous y croyez ou pas aux séries éliminatoires l'année prochaine?
Pour ma part, non. Mais pour moi une genre de run, pour reprendre l'expression anglaise, comme l'ont fait les Flyers, là, ben, si on exclut la fin de saison catastrophique, là, mais comme les Flyers, comme les Red Wings, je pense que ce serait vraiment... On pourrait dire que OK, la progression est là, puis cette équipe-là est à une petite étape de franchir la porte pour les séries, mais selon moi, non pour les séries l'an prochain, mais j'aimerais voir une équipe qui va se battre jusque dans les derniers matchs de la saison régulière pour tenter de faire sa place.
Y croire, je dirais que c'est difficile, mais pas impossible. C'est peut-être la réponse plate, là, une réponse nuancée. Oui, c'est possible de voir le Canadien vraiment s'améliorer. Ça va dépendre de l'été de Kent Hughes.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Parce que si on va chercher un joueur sur le marché des joueurs autonomes, si on en transige un autre avec les 24 choix qu'on a dans les deux prochaines années,
exactement.
La game vient de changer. Là.
Ben oui, puis si tu es à la table au poker, autant Kent Hughes que Gorton, ils ont les mains pleines. Ils ont de bonnes cartes. Tu parlais de 24 choix, Nick. C'est aussi deux choix de premier tour en 2024, deux autres choix de premier tour en 2025. Ils ont leur choix de deuxième tour. Ils en ont d'autres équipes également. Donc, le Canadien a beaucoup, beaucoup de droits de parole. C'est possible d'en bouger, mais de là de prévoir que le CH va être des séries la saison prochaine, je ne suis pas prête à faire cette prédiction-là. Non.
C'est quand même intéressant le point des choix de repêchage, parce que là, on rentre dans la période où le noyau de l'équipe, les Suzuki, les Caulfield, sont à 23, 24 dans ces eaux-là. Ton choix de premier tour en 2024, cet été, quand ton noyau va être au sommet de son art, ce choix-là sera peut-être pas, tu sais, dans la Ligue nationale, il sera peut-être pas un joueur d'impact, à moins que tu le repêches dans le top 3 ou quelque chose comme ça. Mais on arrive dans cette période-là où ces choix pour le Canadien dans le plan sont peut-être, tu sais, ils ont peut-être une moins grande valeur, puis on va peut-être essayer de les échanger pour aller chercher des éléments qui vont cadrer dans ce noyau-là, dans ce groupe d'âge-là.
J'ai hâte de voir aussi, pour avoir une discussion récente avec un recruteur de la Ligue nationale. Le prochain repêchage, il y a la grosse pépite qui est McLean Celebrini. Si jamais, par miracle, le tricolore gagne à la loterie, il n'y aura plus de questions à se poser. Mais après ça, entre la deuxième sélection et peut-être la huitième, il y a beaucoup de noms qui vont circuler dans le même chapeau. Il n'y a personne qui est unanime pour dire qui va être le choix numéro 2, 3, 4, 5. Ça ouvre peut-être la porte encore plus à danser cette saison. Tantôt, on parlait des jeunes défenseurs. Dans la liste, j'ai oublié David Reinbacher.
Ah oui, c'est ça.
Canadien en a des espoirs. Là. Puis Reinbacher, c'est cinquième choix au total. Donc, c'est cette saison, techniquement, en ce moment, s'il n'y a pas de surprise avec les loteries, le CH parlerait encore cinquième. Kent Hughes l'a dit, si jamais c'est un défenseur qui est le meilleur joueur disponible, c'est pas impossible qu'on repêche un défenseur. Et quand tu creuses avec plusieurs recruteurs, si jamais on parle du cinquième rang, probablement que le meilleur joueur disponible va être un défenseur. Il y en a plusieurs dans le top 10 cette saison. C'est une année plus de défenseurs que d'attaquants. On dirait que ça tombe toujours mal.
Ben oui, c'est ça, exactement. Ça tombe. Qu'est-ce que tu veux? Connor Bedard n'était pas disponible l'année de Juraj Slafkovský. Donc, ça tombe pas toujours bien. Les gars, la saison des Canadiens est terminée. La vote est loin d'être terminée. Par contre, parce que là, merci de me parler maintenant, parce que vous vous préparez tous les deux, vous en allez vers l'aéroport pour vous envoler pour la couverture des séries éliminatoires. Votre chemin là, pour la première ronde que les gens vont pouvoir suivre là, sur LNH.com?
Oui, moi, c'est une destination new-yorkaise. Donc, les deux premiers matchs des Rangers du côté du Madison Square Garden contre les Capitals de Washington. Et ensuite, le loisir de rester dans la région new-yorkaise, me promener en train probablement pour faire le trajet du côté de Long Island. On ira voir Patrick Roy et les Islanders contre les Hurricanes de la Caroline. Donc, dans quelques minutes, moi aussi, je vais commencer à repasser des chemises, à sortir mes T-shirts, m'assurer d'avoir le bon décompte.
Tu ne peux pas repasser ça avant de mettre ça dans la valise. Là. Tu vas sortir les chemises puis ça va tout être frippé.
J'ai rarement, repassé une chemise dans ma vie. C'était juste pour faire.
oublie pas dans tes valises tes médicaments pour la toux, là, parce que visiblement, tu as une bonne grippe ce matin. Guillaume, toi, ton côté?
Moi, je m'envole pour Boston. Je vais faire les trois premiers matchs, au moins les trois premiers matchs de la série entre les Bruins et les Maple Leafs de Toronto. Donc, des petits voyages dans l'Est, pas très loin, des petits voyages rapides, des belles villes. On adore Boston, mais les Red Sox ne sont pas en ville, malheureusement.
Ah, malheureusement. Fait qu'avant de vous laisser partir, votre prédiction, champion de la Coupe Stanley?
Oh, là, j'avais pas pensé à ça. Là.
C'est une question... Oh! Ben moi, je garde ma prédiction de début de saison. C'est plus simple de cette façon-là. Rangers contre Oilers Edmonton et Coupe Stanley à Connor McDavid et Oilers Edmonton.
Oh,
je me souviens même plus de ma prédiction de début de saison. Mais c'est ça devait ressembler à ça.
Ça devait ressembler à ça?
J'irai avec les Rangers parce que... Je sais pas, j'ai l'impression que dans l'Ouest, le tableau est tellement relevé qu'on va peut-être arriver en finale de la Coupe Stanley un petit peu amoché. Ça pourrait sourire aux Rangers qui, tu sais, ils gagneront pas parce que l'autre équipe est blessée, là, évidemment, mais ils ont une solide équipe. Mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être peser dans la balance si on se rend jusqu'au bout pour les Rangers.
Bon, ben voilà. Merci les gars d'avoir été là aujourd'hui. On va se reparler durant les séries éliminatoires ici et là. On va se trouver un trou là, selon comment les rondes vont avancer. Et bon, ben, les gens peuvent vous lire sur lnh.com. Merci encore.
Toujours un plaisir.
Merci, les gars.
On poursuit l'émission et j'ai un nouvel invité avec moi, Hugues Marcel. Salut, Hugues.
Salut, Nick. Comment ça va?
Comment tu vas? Ça va bien, toi?
Ça va bien? Hâte aux séries?
Oui, très hâte aux séries. D'ailleurs, merci de te joindre à moi parce qu'on va avoir le balado va être assez occupé. Merci pour la suite là, parce qu'on va avoir tout l'aperçu des séries éliminatoires. On va analyser toutes les séries, toi et moi ensemble, vraiment là, faire un tour de ce qui va se passer, y aller nos prédictions et tout ça. Mais avant, bon, bien évidemment, là, on est jeudi. La nouvelle est tombée il n'y a pas très longtemps, c'était confirmé, mais... C'est la fin pour les Coyotes de l'Arizona dans la Ligue nationale. Il va y avoir une nouvelle équipe qui va s'établir à Salt Lake City, qui va porter le nom d'Utah. Ça va être l'Utah, donc on va faire référence à l'État, bien évidemment. Donc, c'était confirmé cet après-midi. C'est le groupe de Ryan Smith, sa conjointe Ashley Smith, là, qui ont le Smith Entertainment Group, qui sont derrière ça, qui avaient approché la Ligue. Puis finalement, bon, ça a déboulé parce que, soyons francs, Hugues, je pense que... C'était difficile pour les Coyotes, puis le propriétaire Alex Meruelo, il l'a dit aujourd'hui, je pense que la situation là, en jouant à l'Arizona, au Mullet Arena, là, à l'Université de l'Arizona, c'était plus tenable. Même si on a tenté de trouver des solutions, là, c'était plus tenable à court, moyen et surtout long terme.
Oui, ben effectivement, il a un peu comme donné raison à Gary Bettman, là, c'est ce qu'il disait dans le communiqué, comme quoi que... une équipe de la LNH ne peut pas, selon ses standards, jouer dans un aréna universitaire comme le Mullet Arena. Je pense qu'il faut quand même apporter la précision que, sans dire que c'est nécessairement la fin pour les Coyotes, ce qu'on a dit, c'est qu'on, dans un sens, on désactive un peu les Coyotes, je peux imaginer.
On met la concession,
c'est ça, un peu en dormant sur pause. Et on établit une nouvelle concession à Salt Lake City. Et ce que la LNH expliquait, c'est qu'on donne une période de 5 ans à Alex Meruelo, qui est le propriétaire des Coyotes, comme tu l'as dit il y a quelques instants, pour bâtir un nouvel aréna, donc à la fine pointe de la technologie, adaptée aux standards de la LNH. Et là, à ce moment-là, ben, la LNH pourrait revenir en Arizona. Donc, c'est ce qui a été annoncé. Donc... Mais oui, là, dans l'immédiat, c'est ça, c'est terminé pour les Coyotes en Arizona. Je pense que tous nos auditeurs savent qu'est-ce qui était le contexte. Et bon, ouais. En Arizona, en Utah, on débarque dans un État où, avec un aréna qui est plus adapté au hockey de la LNH, avec plus de place, c'est là où le Jazz de Utah joue dans la NBA. Donc, voilà, je pense que ce que Ryan Smith disait, c'est qu'il voulait également bâtir un nouvel aréna. Donc, c'est ouais. Dans les plans là-bas aussi de bâtir un aréna qui va accueillir le Jazz et l'équipe de l'Utah. Donc, voilà, c'est un peu le portrait global.
Parce que c'est bon, c'est le Delta Center qui a été construit au début des années 90. Donc, en termes d'aréna nord-américain commence à dater un petit peu, là, même si c'est un peu ironique à dire, mais c'est surtout que c'est un aréna qui, à la base, n'est pas nécessairement fait pour le hockey de la Ligue nationale de hockey. Il y en a eu, des matchs préparatoires, je pense que l'année dernière, les Kings, entre autres, qui ont joué là, je pense, contre les Sharks, mais il faut reculer les estrades. Là. C'est un aréna...
C'est un peu comme le Barclays Center, je pense,
C'est un peu ça, exactement. Là, mais donc, ça donne environ 14 000 places. Bon, ce qui est petit, mais bon, le plan à long terme, Smith l'a dit, c'est de construire une nouvelle aréna. Surtout que, si tout va bien, l'Utah, Salt Lake City vont accueillir les Jeux olympiques de 2034. Donc là, 1+1+1. Souvenez-vous, en 2002, dans le fond, c'était pas l'aréna où jouaient les matchs de hockey. Tu sais, quand le Canada a battu les États-Unis, ça se jouait, je pense que ça s'appelait le E-Center, je crois, mais c'était un petit aréna. C'était 7000 places. C'était le patinage artistique qui était du côté du Delta Center, où justement, on reculait les estrades puis tout ça. Mais c'est vraiment, à la base, c'est un aréna de basketball. Donc, il va avoir des changements à faire. Là. Je pense que la Ligue l'a dit aussi, là, puis Smith l'a dit qu'il va y avoir des investissements qui vont être faits afin d'accueillir cette nouvelle équipe-là. Bon, les contrats, le personnel, tout ça, donc le nouveau groupe a fait l'achat de ces contrats-là, a fait l'achat des joueurs, la liste, les espoirs, tout ça, on amène ça. Donc, sur la glace, bon, ça, c'est l'aspect qui ressemble, qui est comme plus un déménagement. Là, dans le fond, tous ces joueurs-là vont déménager en Utah. Mais la concession, comme tu dis, le nom, les Coyotes, tout ça, ça tombe en dormance du côté de l'Arizona. Donc, c'est pas tous les jours où on a une nouvelle équipe qui naît, hein, comme ça. Là, bon, il n'y aura pas de nom pour commencer. Soyons francs, là, on est quoi? On est le 18 avril. Là. Mettre sur pied une concession, un branding, c'est une chose, mais la chaîne de distribution pour mettre tout ça en place. À Montréal, là, on a vu avec le CF Montréal, quand on a décidé de changer de logo, là, ça avait été compliqué et tout ça. Donc, il y a vraiment une grosse chaîne de distribution à créer. On a décidé d'être patient. Un peu comme la Ligue d'hockey professionnelle féminine, la LPHF, ouais. La Ligue professionnelle d'hockey féminine, excusez-moi. Qu'on a fait la même chose cette année, puis on va donner des identités par la suite. Donc, on n'a pas voulu rusher les choses en bon français là, du côté de l'Utah, mais on va devoir rusher par à peu près pour mettre cette équipe-là sur pied là-bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui. Smith, il est propriétaire du Jazz d'Utah, il est propriétaire du Real Salt Lake aussi dans la MLS. Donc, il y a déjà une base, il y a déjà un organisme, voyons pas, j'ai juste un organisme, mais il y a déjà un organigramme décideur. Dans le fond, on va joindre des éléments à ça au lieu de devoir partir à zéro. Donc ça donne déjà un bon coup de main. Puis tu obtiens une équipe peut-être qui va être qui n'est pas nécessairement compétitive cette année, mais qui a quelques jeunes intéressants qui s'en viennent à long terme. Donc ça va aider.
Oui, bien, sur le plan, tu sais, sur le plan hockey, clairement, les Coyotes ont quand même de bons jeunes. On l'a vu juste en fin de saison avec les Dylan Guenther, Logan Cooley, qui était un nom qui revenait en début de saison pour le Trophée Calder et qui a quand même connu une très bonne saison. Donc, on a plusieurs bons jeunes. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a plusieurs choix en repêchage. Donc, tout ça, là, tu l'as dit, tout ça est transféré à l'Utah. Donc, on a vraiment une bonne base. Donc, est-ce qu'on va procéder à des transactions pour tenter de faire un splash et rentrer fort dès la première saison? Ça va être possible parce qu'on a des actifs en main. Et pour revenir justement à ce fameux nom-là qui ne sera pas décidé, c'est que c'est certain que ça a l'air simple de dire ben on s'assoit à une table et on décide d'un nom et d'une équipe. Mais tu sais, il faut que les gens comprennent qu'il y a quand même un espèce de travail de conception derrière tout ça. Et tu sais, il faut juste penser au Kraken de Seattle ou aux Golden Knights de Vegas. Tu sais, eux, ils ont eu un délai de 2 ans là, entre l'annonce de l'expansion et leur entrée où on commençait à jouer des matchs. Fait qu'en 2 ans, tu as le temps de te préparer non seulement ton équipe, mais ton image de marque, l'identité que tu veux véhiculer. Donc, je pense que. J'ai aucune idée du montant de la transaction, mais quand tu achètes, quand tu débourses ce que Ryan Smith a déboursé pour faire l'acquisition d'une concession de la Ligue nationale, ben je pense que tu as le droit de prendre ton temps pour réussir ton image de marque comme tu le souhaites.
De toute façon, ça passe juste une fois là, la chance de créer un nom. Là. On sait les concessions Exactement. Qui changent de nom après 5 ans, là, c'est pas très, très intéressant. Bon, on a regardé le dernier match. J'ai regardé le dernier match des Coyotes hier. C'était quand même émouvant. Groupe d'irréductibles, hein? C'était ça, les Coyotes. Peut-être que ça n'attirait pas beaucoup au niveau des foules en comparaison avec d'autres concessions dans la Ligue, mais il y avait quand même un groupe d'irréductibles. Beaucoup de larmes dans la foule. On a été chercher une victoire de 5-2 aussi, donc belle performance pour un dernier souvenir. Moi, ça m'a tellement rappelé les Expos. Tu sais, les Nordiques, ouais. Là, les Nordiques, j'avais 11 ans, je n'étais pas assez vieux pour comprendre ce qui se passait lorsqu'on était en train d'affronter les Rangers là, en séries éliminatoires, l'élimination hâtive, tout ça. Mais les Expos à Montréal, ça, je l'ai vécu. Puis il y a tellement de similitudes réellement entre les Coyotes et les Expos, beaucoup plus qu'avec les Nordiques, parce que les Expos, ça avait été ça aussi. Ça avait été le tourniquet de la rotation de propriétaires. Il y avait plusieurs propriétaires, c'était ça aussi. On jouait à Glendale, ça fonctionnait pas. On jouait au Stade olympique, c'était beaucoup trop grand. C'était pas approprié pour du baseball à Montréal l'été. Ensuite, bon, ben, le Mullet Arena. Les Expos allaient jouer à Porto Rico, hein? Souviens-toi, je pense, les deux derniers étés. Il y a tellement de similitudes. C'était des équipes, justement, qui ont... Tu sais, les Coyotes, je pense qu'on fait les séries éliminatoires une fois pour vrai, puis une autre fois dans la bulle. Si je ne me trompe pas, on a atteint l'association de l'Ouest une fois. Les Expos, c'était ça aussi. On ratait les séries éliminatoires à toutes les années ou presque. Puis quand il y avait eu le Blue Monday, là, c'est, souviens-toi, là, c'est en 81. C'était un peu ça aussi lorsqu'on avait eu le cœur brisé. Tu sais, les joueurs qui ont parti. Il y a tellement de similitudes. Puis moi, c'est ça que je dis aussi, c'est que quand les gens me parlent, au Québec, me parlent des Coyotes, je dis, écoutez, on n'a pas été mieux ici. Là. C'est exactement ce qui s'est passé ici avec les Expos. Donc, moi, écoute, les similitudes sont fortes. Je suis sûr que ça rappelle des gens qui nous écoutent là, les mêmes souvenirs. Au moins, les Coyotes ont été chercher une victoire pour terminer ça. Les Expos, eux, c'était incliné... Je pense assez solidement contre les Marlins de la Floride. Mike Mordecai avait eu, si je ne me trompe pas, le dernier retrait.
Ben, et puis, non seulement le dernier match, une grosse victoire de 5-2 contre les Oilers d'Edmonton, un adversaire pas facile, mais même dans la semaine d'avant, là, quand ça ne veut pas commencer à se tramer un peu en coulisses, on en entendait parler un petit peu. Les Coyotes ne sont pas laissés du train, ont quand même joué du bon hockey. Tu te souviens-toi, une victoire la semaine dernière, il y a un petit peu plus d'une semaine, 4-3 en prolongation contre une grosse équipe, les Canucks de Vancouver, avaient battu même ces mêmes Oilers 3-2 en prolongation vendredi dernier. Et on a baissé pavillon dimanche contre les Flames de Calgary, mais c'était, on a livré tout un effort, on a perdu 6-5. Donc, non, effectivement, les Coyotes qui partent la tête haute, on peut dire ça comme ça.
Ouais, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec André Tourigny qui... Et tout le monde, dans le fond, tout le monde de travailler plus dans l'incertitude. Parce que c'était ça, les Coyotes, là, c'était de l'incertitude. C'est difficile de bâtir quelque chose. Bill Armstrong, directeur général, c'est difficile de bâtir quelque chose, d'aller chercher du personnel compétent, d'aller chercher des gros noms, quand tu ne sais pas exactement ce qui va arriver avec l'équipe dans les prochaines années. Est-ce qu'on va pouvoir bâtir un aréna? Bon, l'année dernière, c'était à Tempe, tu te souviendras, puis ça s'est écroulé, le plan s'est écroulé là, en fin de saison. Donc... Là, on va avoir de la certitude, on va avoir une concession qui... Puis c'est un marché Salt Lake City, n'oubliez pas, là, mais c'est quand même un marché hivernal. Oui. Y a du ski là, dans les environs, y a somme toute, comme j'ai dit, les Olympiques, c'est les Olympiques d'hiver là, en 2034, là, c'est pas sûr d'été. Donc, c'est pas un marché qui est atypique, ben, comme les Coyotes l'étaient dans le désert. Pas que le hockey peut pas fonctionner dans le désert, je pense que les Golden Knights nous le prouvent à tous les jours. Mais justement, il va avoir cette constance-là, il va avoir cette ça va rassurer, je pense, au tout le monde, même si au début, là, ça va quand même... Tu perds. Je pense à Clayton Keller, je pense qu'il aimait ça jouer là dans le désert. Puis le hockey aussi, si les Coyotes ont fait quelque chose, c'est développer le hockey en Arizona. Le programme d'ASU, Arizona State University, c'est sorti de nulle part. C'est vraiment interne parce que le hockey devenait de plus en plus... populaire en Arizona, puis on a fondé ce programme-là, puis ça joue en division 1 de la NCAA, puis ça produit des joueurs de la NCAA. T'as des Austin Matthews qui sont sortis de l'Arizona. Donc, c'est un marché avec beaucoup de... Parce que le marché de Phoenix, c'est énorme. C'est beaucoup plus gros que Salt Lake. Donc, ça, c'est sûr que c'est une perte sur le potentiel de développement. Mais je pense qu'à court terme, Salt Lake pour la Ligue va être mieux. Puis écoute, il n'y a rien qui dit qu'éventuellement, justement, avec cette entente-là de 5 ans, là, où... peu importe par la suite, peut-être que la Ligue va être de retour dans le désert un jour. Comme je dis, quand je regarde les succès des Golden Knights, si les Coyotes avaient eu la moitié des succès des Golden Knights depuis leur entrée dans la LNH, là, peut-être qu'on aurait une discussion un peu différente aujourd'hui sur le dénouement de tout ça. Et voilà, on passe à la suite de l'émission et ce que vous attendez, là, j'en suis certain, l'aperçu des séries éliminatoires 2023-2024 de la Ligue nationale de hockey. Moi et Hugues, aujourd'hui, on va faire le tour un peu des 8 séries. On va vraiment regarder ce qui va se passer, ce qui est à surveiller. On va y aller de nos prédictions, hein, Hugues?
Ben oui, certainement. On va se mouiller un petit peu.
On va se mouiller un tout petit peu. Est-ce qu'on va se mouiller jusqu'au champion de la Coupe Stanley? On ose-tu aller là? Ou?
Ben écoute, moi, dans mes prédictions de septembre, j'avais... Mon finaliste et mon champion sont en série présentement.
OK, c'est bon.
On vient terminer la saison, donc moi, je peux aller jusque-là.
Garde ça pour la fin du balado.
Pour l'instant, je parais pas mal. Donc,
c'est ça, exactement. garde ça pour la fin du balado.
On gardera ça pour plus tard, exact.
Alors, on va faire vraiment... On va y aller. Allons-y. Question de transparence. Là, bon, on voulait être certain de vous offrir ce balado-là rapidement vendredi matin. Donc, il y a quelques bouts. On a enregistré ça en tranche. Là, donc, je vous dis pas il est quelle heure présent. Tout ce que je vous dis, c'est que le soleil est couché depuis assez longtemps, merci. Mais bon, il y aura peut-être quelques statistiques qui ne seront pas à jour, totalement à jour. Là, mais bon, au final, c'est pas ce qui compte. Là. La saison est terminée, c'est tout le monde, les compteurs retombent à zéro et on commence les séries éliminatoires. Allons-y, Hugues. Parlons des champions du calendrier régulier, champions du Trophée des présidents, les Rangers de New York, qui vont affronter les Capitals de Washington. Eux qui sont entrés en séries éliminatoires par la peau des dents. D'ailleurs, quelle fin de saison, hein, disons-le. Ça a été assez spectaculaire comme dénouement, tout ça, mardi soir, avec les Flyers qui retirent leur gardien à Montréal, les Red Wings qui espéraient toujours l'emporter. Il y avait les Penguins qui regardaient tout ça. Non, ça a été une des fins de saison les plus... des courses les plus palpitantes avec le plus d'équipes. Là. C'était quand même à 4 équipes là, jusqu'à la dernière seconde. On n'a pas vu ça fréquemment dans les dernières années. Bon, mais là, les Capitals avec ce entrée comme ça vraiment par la porte derrière de la sorte, est-ce qu'on a réellement, selon toi, une chance contre les Rangers de New York?
Moi, je crois pas. Écoute, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Écoute, le collègue John, que je salue, qui a sorti
John
une statistique.
Selfie, oui.
Ouais, il me sortait la statistique. Donc, je lui donne le crédit que les Capitals sont l'équipe avec le différentiel de but de moins 37. Donc, c'est le pire différentiel pour une équipe qui entre en séries éliminatoires depuis 1991. Et à cette époque-là, il y avait 16 des 21 équipes qui faisaient les séries éliminatoires. Donc, le calcul, on est rendu à 32. Il y a toujours 16 équipes qui font les séries.
C'est plus la même ligue, là.
Je vois pas comment les Capitals vont tenir tête aux Rangers. Moi, je pense que ça va être une série assez courte. Écoute, moi, j'ai plus l'impression que les Capitals sont là parce que, bon, c'est un peu le résultat de cette course de tortue-là, un petit peu. Dans l'association de l'Est, tu sais, je veux dire, pas plus tard qu'à la mi-février, les Red Wings de Détroit avaient l'air partis pour être en séries éliminatoires.
On s'est écroulé là, en masse. Là.
C'est ça, en début mars, on a perdu, je pense, 7 matchs de suite. Alors que si on avait joué pour seulement 550, comme ils ont joué cette saison, ils sont à 555, ben peut-être qu'on serait en série présentement. Donc, j'ai pas une équipe qui m'a convaincu, les Capitals de Washington. Donc, je pense pas que ça va être une très longue série, non. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais j'ai pas l'impression que...
Non, exactement. Là, dans mon cas, je suis du même avis. Je veux dire, les Rangers, c'est une équipe qui quand même commence à avoir un peu d'expérience en séries éliminatoires. Les Capitals, oui, on a beaucoup d'expérience, mais on est pas mal vieillissant. Ça va avoir pris un effort concerté des 4 équipes impliquées dans la course aux séries éliminatoires. Même, on pourrait dire 5 avec les Islanders là, qu'on a même pas nommé. Là. On y reviendra, mais un effort concerté de tout le monde pour que ce soit aussi long pour avoir quelqu'un qualifié en séries éliminatoires. Donc, c'est une belle fin de saison pour Alex Ovechkin. La course au record de Gretzky va se poursuivre l'année prochaine, mais non, je pense pas que les Capitals ont des chances. La question que je te pose, par contre, c'est est-ce que quand tu regardes cette équipe-là des Rangers, oui, on est champion du calendrier régulier, mais est-ce qu'on a les éléments pour aller jusqu'au bout?
Bien, sans vendre le punch de ce qu'on disait en début d'intervention quand on a commencé à parler de ça, mais moi, c'est l'équipe que j'avais placée dans l'Est qui se rendait en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Les gangs, le trophée des présidents. Donc, j'ai vu un. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on savait que les Rangers. On savait que les Rangers allaient avoir une bonne équipe. Moi, je pense qu'ils ont absolument tout pour aller très loin. Je veux dire, en partant, ils ont un gardien numéro un qui fait partie de l'élite, Igor Shesterkin. C'est souvent ce que tu as besoin en séries éliminatoires pour aller loin en série. Je veux dire, regarde, pense aux Canadiens de Montréal qui sont avec une équipe, tu sais, pas très.
Moyenne.
Moyenne sont rendus en série éliminatoire juste parce qu'il y avait un bon gardien. Là, en plus de Shesterkin, on a des
bons éléments. Toi, tu parles pas cette année, par contre, les Canadiens, tu parles...
Non, pas, effectivement. je rappelle des meilleurs souvenirs aux partisans.
Oui, c'est une fameuse Saint-Jean.
Mais exact, la Saint-Jean, oui, ouais, exact. Et la pizza de Philippe Dano et tout ça. Oui. Mais bref, non, ce que j'allais dire, c'est justement c'est qu'on a le gardien, mais là, en plus, on a les éléments en attaque pour faire du dommage, je trouve. Tu sais, Panarin, qui a une saison dont on parle peu. On a une bonne ligne de centre avec l'acquisition de Wenberg à la date limite des transactions. Je trouve que ça place tout le monde dans la bonne chaise. Des gars qui ont du vécu comme Barclay Goodrow, une défensive qui fait le travail. Donc, il ne faut juste pas que les Rangers s'éteignent. Je ne sais pas si tu te souviens, en première ronde l'année dernière contre les Devils, ils sont un peu éteints offensivement. Ouais. Ils se sont butés. C'était Akira Schmid, si tu te souviens bien. C'était buté à ce gars-là chez les Devils. Il ne faut juste pas qu'ils s'éteignent, mais je veux dire, on peut pas dire qu'ils n'ont pas toute l'équipe pour aller jusqu'au bout. Là.
Quand tu regardes l'acquisition de Jack Roslovich, parce qu'on a souvent reproché le flanc droit du côté des Rangers, excuse-moi. L'acquisition de Jack Roslovich qui est sur le trio de Kreider, Zibanejad, puis la saison d'Alexis Lafrenière qui enfin a vraiment éclos. Avec un joueur avec Artemi Panarin qui est pas très loin dans la course au trophée Hart, ça aide à éclore, mais tu sais, à sa défense, il l'a fait, Lafrenière. Mais t'es-tu convaincu que ce flanc droit-là va pas finalement venir un peu nuire aux chances des Rangers à long terme?
Non, je peux pas dire que je regarde le flanc droit puis tu sais, je me dis, oh mon Dieu, le flanc droit, c'est quelque chose qui va leur nuire. Tu sais, tu as parlé de Lafrenière. On en a parlé dans. C'était le dernier balado ou l'autre d'avant. On disait à quel point Lafrenière avait eu une bonne saison et que s'il y avait eu du temps de jeu en avantage numérique, il aurait peut-être encore été plus productif. Puis pour moi, Lafrenière, c'est un joueur qui est peut-être plus bâti pour les séries qu'on pense. C'est quand même un gars qui n'a pas peur d'aller dans le coin, de sortir les coups d'épaule pour sortir avec la rondelle. Je trouve qu'il y a peut-être un style de jeu. Adapté peut-être pour les séries. C'est peut-être un gars qu'on va voir encore plus ressortir, je pense, en séries éliminatoires avec les Rangers. Moi, j'ai hâte de le voir. T'sais, comme je te dis, j'ai beaucoup aimé sa saison. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Donc non, le flanc droit, ça ne m'inquiète pas. Écoute, il y a tellement de, tu me permettrais l'expression anglaise, de star power, de joueurs vedettes dans cette équipe-là, que tu sais, les Adam Fox en défense.
De puissance étoilée.
Oui, appelons ça de la puissance étoilée. Que non, ça ne m'inquiète pas. Je suis assez confiant pour les Rangers.
Bon, voilà, c'est réglé pour cette première série. On poursuit avec une série à la santé du Sunshine State, c'est-à-dire les Panthers de la Floride contre le Lightning de Tampa Bay, une série toute floridienne. J'ai hâte de voir ça. Les Panthers qui ont remporté le titre de la section Atlantique en battant les Maple Leafs de Toronto, c'était mardi, vraiment une victoire convaincante. Et bon, on affronte le Lightning. Lightning qui a connu une saison quand même difficile. On se souvient, on a été privé d'Andrei Vasilevski en début d'année. Ça a pris beaucoup de temps avant que le gardien trouve son rythme. D'ailleurs, une chance qu'on avait Nikita Kucherov là, du côté du Lightning cette année, a vraiment là, mis cette équipe-là sur ses épaules. Moi, personnellement, c'est mon choix pour le trophée Hart. Il y en a d'autres que c'est pas ça, on en parlera plus tard. Mais je regarde ça et ça sera pas facile pour les Panthers. Vraiment, quand je regarde cette compétition-là, les deux équipes qui sont face à face, les Panthers vont devoir s'atteler à la tâche contre une équipe aussi expérimentée, bien évidemment, que le Lightning.
Oui, effectivement, ça sera pas facile. Le Lightning, tu l'as dit, a bien terminé la saison. C'est une des séries que j'ai le plus de difficultés à prédire. D'un côté, je trouve que les Panthers sont bâtis pour les séries. Je pense qu'ils ont un style de jeu qui ils prennent une coche de plus en séries éliminatoires qu'ils ont peut-être tout le temps en saison régulière. Tu sais, en saison régulière, tu ne peux pas toujours avoir l'émotion d'un match numéro 7. Tandis qu'en séries éliminatoires, on a l'impression que cette émotion-là est à son maximum à chaque match. Puis j'ai l'impression que les Panthers sont bâtis pour jouer ce genre de match-là tout le temps.
On l'a vu l'année dernière là, en séries éliminatoires.
Exactement.
On est allé en finale.
Je veux dire, c'est sensiblement les mêmes éléments importants de cette équipe-là qui reviennent cette année. Puis moi, je questionne un peu la profondeur offensive du Lightning. Mm-hmm. Je veux dire, le Lightning, c'est une équipe qui fait peur parce qu'ils ont gagné. Puis je veux dire, je serais pas surpris qu'ils gagnent encore. Là, je veux pas, j'enlève rien au Lightning. Je veux dire, tu as parlé de Kucherov, tu as Vasilevski devant le filet, tu as Stamkos, Edman en défensive, les éléments, l'expérience, tout est là pour faire du dommage offensivement puis aller loin, mais je sais juste pas si on a la profondeur offensive pour aller jusqu'au bout. En tout cas, je trouve qu'ils n'ont pas la profondeur offensive des Panthers. Je pense que c'est ça qui pourrait peut-être faire la différence. Je reviens à Kucherov. C'est une nouvelle saison. Là. Il finit la saison avec quoi, 144 points, je pense, Kucherov.
140, oui. Vois-tu, dans la victoire match, contre Toronto, là,
il a fait 2 points. Si je me souviens bien. Donc, bon, disons qu'il fait 145 points. Là,
je vais aller vérifier.
Mais bref, tout ça pour 144. Dire que là, c'est une nouvelle saison. Puis je me dis, c'est sûr qu'il va être plus surveillé, le jeu en série. Tu sais, c'est un cliché, mais le jeu se resserre. Je ne sais pas à quel point ça va être. Tu sais, tu as besoin de tes. Ça va être aussi simple pour Kucherov. Tu as besoin de tes joueurs de profondeur pour produire offensivement. Puis je ne suis pas certain. Donc, pour moi, j'ai peut-être l'impression que ça va aller à l'avantage des Panthers. Mais je veux dire, j'ai tellement de difficultés à prédire qui va sortir gagnant de cette série-là. Je vois les deux équipes sortir gagnant. Je pense que tu rejoues cette série-là 10 fois. Puis je pense pas, tu sais, je pense que les équipes, 50% du temps, une équipe gagne, 50% l'autre moitié du temps, l'autre équipe gagne. Donc, c'est
J'irais pas aussi loin que ça, parce qu'effectivement, moi, on va dire, la profondeur en offensive, la profondeur en défensive du Lightning n'est pas ce qui me rassure le plus, à moins qu'on ait un petit miracle, puis Mikhail Sergachev revienne au jeu, mais bon, on n'a pas eu de nouvelles. Il a recommencé l'entraînement, mais ça va pas en ce sens-là. Et on dit souvent, puis je viens de le dire, le Lightning, c'est une équipe expérimentée, mais les Panthers viennent d'aller en finale de la Coupe Stanley. Oui,
exact.
C'est une équipe qui l'a gagné, cette expérience-là. Et on ne saura jamais ce que cette équipe-là aurait été capable de faire si elle avait été en santé en finale. Tu sais, les Golden Knights, les choses allaient bien pour eux au niveau bilan de santé, tandis que c'était l'hécatombe chez les Panthers. Moi aussi, je trouve que Sergei Bobrovsky a eu une saison très rassurante. L'année dernière, ça n'avait pas été aussi égal pour Bobrovsky. Cette année, il a très bien joué. Anthony Stallers a fait du bon travail comme adjoint pour lui permettre, en plus, en fin de saison, d'aller chercher un peu de repos. C'est une équipe qui a de la profondeur partout. C'est vraiment une équipe. On a été chercher Tarasenko, qui est juste un autre ajout au Verhaeghe, au Reinhardt. Anton Lundell, tu vas te chercher Evan Rodriguez. T'as une troisième ligne défensive, ce que ça te prend en séries éliminatoires. Sam Bennett, Matthew Tkachuk, c'est fatigant à les affronter. Alexander Barkov, c'est taillé pour les séries. Quand je regarde ça, écoute, je me dois d'y aller avec les Panthers. Tu sais, je vais quand même en donner au Lightning, mais par exemple en 6, à mon avis, là, je pense pas que ça va être si serré que ça. J'ose pas dire 5, mais en 6, parce que quand je regarde le Lightning l'année dernière, c'est sûr qu'on était plus fatigué, mais le Lightning, on ne l'avait pas emporté contre les Maple Leafs. Puis quand je regarde cette équipe-là des Panthers, je pense que c'est une meilleure équipe que les Maple Leafs c'était l'année dernière. Puis je pense que le Lightning est une moins bonne équipe qu'elle l'était l'année dernière. Donc, je pense que ça va être quand même à l'avantage des Panthers là, qui vont poursuivre leur chemin. Je ne sais pas si tu voulais y aller pour un chiffre. On ne l'avait pas dit pour la première série, là.
Ben, on a dit
je pense
que
les Rangers,
là,
ça serait court, 4 ou 5, là, mais je sais pas si tu veux y aller pour un chiffre.
Ben, moi aussi, je vois ça en 6 ou 7. Je vais y aller 7, bon, Panthers 7. En 7. Mais tu vois, c'est ça. C'est, ça témoigne à quel point je suis pas. J'ai de la difficulté à mouiller pour cette série.
Bon, ben, c'est correct. C'est ça
pas
fait,
facile.
Ça fait partie de la game. On poursuit, je viens d'en parler, les Maple Leafs qui ont rendez-vous avec leur cauchemar. Les Bruins de Boston, on sait, les Bruins en série éliminatoire qui ont le numéro des Maple Leafs depuis. Ben, je ne sais plus quand. Là. Honnêtement, c'est, ça fait très longtemps que les Bruins, chaque fois qu'on affronte Toronto, on a le dessus. Donc, les deux équipes ont connu un peu des saisons en dents de scie. Fin de saison, devrais-je dire, en dents de scie. Dans le cas des Maple Leafs, les deux dernières défaites là, contre les Panthers, contre le Lightning. Je te demande une chose. Est-ce que la quête de 70 buts d'Austin Matthews, qui finalement, il ne l'a pas atteint, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé là, quand tu retires ton gardien à 6-3, comme c'était le cas là, lors du match de mercredi. Mais as-tu l'impression que c'était une distraction pour les Maple Leafs? Parce que j'ai trouvé que leur fin de saison, c'était pas à la hauteur de ce qu'ils avaient montré juste en début du mois d'avril.
Ben, moi, j'aurais plutôt eu l'impression que j'aurais pensé que ça aurait été une façon de se rallier autour de quelque chose, se rallier autour d'un but commun. En disant on travaille pour les 70 buts d'Austin Matthews, puis on rentre en série en force. Mais là, c'est pas le cas. Les Maple Leafs sont rentrés en série éliminatoire avec, si je ne me trompe pas, 4 défaites dans leurs 4 derniers matchs. Donc, ils n'ont pas gagné à leurs 4 derniers matchs. Donc, moi, j'aurais pensé, oui, qu'on se serait rallié autour de ça. Pour avoir vu le match de mercredi entre les Maple Leafs et le Lightning, on sentait, on sentait que le match, pas qu'il voulait rien dire, mais au classement, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. On sentait que on voulait que Matthews y réussisse le 70e but. Matthews a tiré 11 fois au filet dans ce match-là. Donc, je pense que ça dit ce que ça a à dire. Mais oui, j'ai un peu l'impression que ça a été une distraction. Mais je trouve que ça n'aurait pas dû en être une. Je trouve que ça aurait dû être quelque chose de positif autour duquel se rallier. En espérant que là, bon, mais... ça a été raté. Ça s'est arrêté à 69 pour Matthews. En espérant que là, comme je disais, ils ont perdu leurs 4 derniers matchs. Ça ne peut plus continuer contre les Bruins. Mais oui, j'ai un peu l'impression que c'est une distraction.
Tu le sais autant que moi, quand tu modifies ton jeu pour forcer des buts, c'est parfois là où tu t'en fais marquer, puis tu te retrouves ses talons, puis tu sais, tu as changé ton système. Et je ne suis pas certain qu'avoir changé ton système, alors que tu es supposé d'être dans la phase finale pour le peaufiner avant l'arrivée des séries éliminatoires, c'était l'idéal pour les Maple Leafs. Je pense même que Sheldon Keefe en a parlé un petit peu, là, l'entraîneur-chef.
Oui, ben il disait que... Tu sais, je pense que c'était un drôle de commentaire. Je pense qu'il a dit un peu à la blague que c'était une distraction. Peut-être qu'il aurait aimé reposer Matthew. Ben oui,
c'est ça.
C'est ça, mais
il y a un fond de vérité.
C'est une de déclaration, mais peut-être qu'il aurait aimé reposer Matthews aussi avant le reposer ses gros canons avant le début des séries éliminatoires. Évidemment, il n'a pas pu le faire parce que quand un joueur a un but du plateau des 70, il faut que tu lui laisses la chance de réussir ça. Mais bon, quand même, je veux dire, Matthews, c'est 69 buts cette saison. Ça va être un gros joueur dans cette série-là. Faut que ça soit un joueur qui fasse la différence. Puis par le passé, ce qu'on a remarqué, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais les Maple Leafs, souvent, le problème, c'était justement en séries éliminatoires, les gros canons,
ouais, les gros canons
qui s'absentaient. Qui tombait discret. Donc, moi, j'ai l'impression que la série va jouer là. Je pense que si Marner, Matthews, Nylander... Bon, Nylander a tout le temps été très bon en série éliminatoire. Je vais l'exclure de cette équation-là. Disons Marner, Matthews, Tavares, Riley. Là, si ces quatre gars-là peuvent produire comme ils l'ont fait en saison régulière, je pense que les Leafs vont battre les Bruins. Mais c'est tout, on dirait que c'est toujours ça l'histoire à Toronto. C'est même pas, tu sais, les livres se rendent tout le temps en série pas de goaler, mais c'est jamais le fait qu'ils n'ont pas de goaler. Mais j'exagère.
Oui,
mais
je suis.
Je veux dire, ils rentrent en série puis on se dit, ouais, ça va pas devant le filet, c'est leur faiblesse. Mais c'est jamais devant le filet le problème quand tu y penses. C'est toujours ce qu'on parle à la fin des séries, c'est jamais, le gardien n'a pas fait le travail. C'est tout le temps, Matthews a pas scoré, Marner a ralenti, donc...
En même temps, à Toronto, Toronto, on est rapide sa gâchette pour tirer sur les étoiles, les vedettes de l'équipe.
Là-dessus, oui, mais c'est vrai quand même que il y a certaines années où ça laissait désirer les performances offensives. Mais
souviens-toi, l'année dernière, là, on surfait sur notre vague là, après avoir battu le Lightning en première ronde, puis on est arrivé flat en deuxième tour contre le Lightning. Juste pour le plaisir, j'ai été voir la dernière fois que les Maple Leafs ont battu les Bruins en séries éliminatoires. Veux-tu deviner la décennie?
Je me demande si c'est pas genre l'année où ils ont gagné la Coupe Stanley.
C'est avant ça.
Avant ça.
1959, Hugues.
Oh boy.
Donc,
ouais,
on a perdu par la suite.
Ils ont le poids de l'histoire.
C'est qu'on a perdu contre eux après ça trois fois à la fin des années 60, début des années 70. Et par la suite, les Maple Leafs sont éventuellement allés dans l'Ouest, parce que Toronto, c'était à l'Ouest à l'époque, là, avant toutes les phases d'expansion. Et on n'a pas recroisé le fer avant 2012-2013. Donc là, il y a quand même eu un bon gap, là. Mais officiellement, 1959, la dernière fois que les Leafs ont battu les Bruins. Parlons-en des Bruins avant de se prononcer. Une saison qui est quand même surprenante. Et avec les départs de Patrice Bergeron, avec David Krejci qui ne sont plus là. Je pense qu'on a fait un bon travail pour vraiment bien établir une structure, peut-être aller combler. Mais là, ce que je te demande, c'est ce qu'on a fait cette année, est-ce que ça va permettre d'éviter ce qui s'est passé l'année dernière en séries éliminatoires quand on est tombé contre les Panthers puis on est tombé juste à un but près d'avancer et d'aller peut-être très loin dans ce qui était une saison record.
Rappelle-toi le match numéro 5 de la série de première ronde l'année dernière. Est-ce que tu te souviens? Brad Marchand s'échappe en fin de troisième période, stoppé par Bobrovsky. Puis la série s'est jouée là. Après ça, les Panthers ont gagné en prolongation. Puis le reste est de l'histoire, comme on dit.
C'était pas une campagne publicitaire, ça, le reste de l'histoire? Je me souviens plus comment tu
fais.
C'était quoi? C'est...
La campagne publicitaire de la Coupe Stanley, c'était...
Ah, les gens à la maison, là, ah, vous êtes en train de le crier. Là. C'était des vidéos là, avec une petite chanson là, en noir et blanc, puis ça reculait. Là.
Ah,
et continue, je vais aller.
Mais bref, tout ça pour dire que l'année passée, on était à un but de passer en deuxième ronde. Ça allait bien, donc je veux dire, moi, je pense que les Bruins n'ont pas le poids de ça. C'est une équipe qui va être capable, qui pourrait très bien battre les Maple Leafs. Je pense que c'est une équipe avec une espèce de culture gagnante qui a été laissée, je pense, par Patrice Bergeron, par David Krejci, qui ont pris leur retraite, mais qui ont été portés cette saison par Marchand et Pasternak. D'ailleurs, Pasternak, on parle du trophée Hart. C'est un gars dont on parle pas beaucoup pour le trophée Hart, Pasternak, mais tu parles d'un joueur qui est le plus utile à son équipe. 110 points cette saison. Plus proche pour souvent derrière lui, c'est Brad Marchand, 67 points. Donc, clairement un gars qui peut faire la différence lui aussi. Mais je sais pas, on dirait que je m'attendais pas à une saison comme ça des Bruins. Moi, je les avais même pas mis en séries éliminatoires. Donc, je sais pas. J'ai peut-être peur que ça tombe un peu... plate, si je peux me permettre le mot en anglais, en séries éliminatoires. Donc, non, c'est ça, je suis un peu perplexe. Je pense que les Maple Leafs vont gagner ça, vont venir à bout des Bruins, mais c'est encore là, c'est tellement difficile à prédire. Là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés.
J'ai trouvé, je l'ai juste en anglais, mais c'était « What if ». Tel joueur n'avait pas fait telle chose, puis après ça, c'était « History will be made », la campagne publicitaire.
History will be made.
En français, là, j'ai un blanc en français, là, je suis désolé, tout le monde, à la maison. Là, de toute façon, il y en a, vous êtes probablement là, plusieurs là, crier à votre radio présentement. C'était quoi, et si l'histoire s'écrira, je ne sais pas. Là,
oui, quelque chose.
Ça sonne bien, écoute, être publiciste, j'irais avec ça. Juste avant d'y aller, la prédiction, tu as Yassine Sonov d'un côté, qui, fin de saison, un peu décevante, mais bon, somme toute, après avoir été retranché dans la Ligue américaine de hockey, il revenait en force en deuxième portion d'année, contre un excellent duo de gardiens. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si les Bruins vont faire Swimming une marque en série, comme on l'a fait en saison. Montgomery a ouvert la porte à ça. On verra bien combien de temps ça va durer si on fait ça. Mais quand tu regardes ce duel-là de gardiens, ta balance penche du côté du monstre à deux têtes ou de celui qui a le filet officiellement?
Non, j'ai pas le choix d'y aller avec les Bruins devant le filet. Puis tu sais, je pense que s'il faut que la série se joue là, si la série se joue devant le filet, je pense que c'est les Bruins qui vont l'emporter. Samsonov, c'est un gardien, on a l'impression que quand ça va bien, ça va extrêmement bien, puis il est solide, il est en confiance, mais on a l'impression que quand ça va mal,
ça prend pas long.
Il est au plus bas de ce qu'il peut être. Faut pas que la série se joue devant le filet. Faut que les gros canons des Maple Leafs livrent la marchandise qu'ils n'ont pas souvent fait. En séries éliminatoires par le passé. Mais je pense que ça va être le cas. Il y a tellement d'équipes. Je pense aux équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. T'sais, mettons l'Avalanche, tu as eu quelques années de déception, puis ont finalement comme un peu défoncé la barrière qui les empêchait de gagner, puis ont fini par gagner la Coupe Stanley. Les Capitals de Washington en 2018, combien d'échecs ils ont eu les Capitals contre les Pingouins des années précédentes? Ils ont fini par gagner la Coupe Stanley en 2018. Même les Golden Knights, dans une certaine mesure, leurs premières années, ça a tout été une bonne équipe. Ils ont jamais. Ils sont rendus en finale. Après, on les voyait aller loin. Ça finit par gagner l'année dernière. Donc, je me dis, je ne suis pas en train de prédire une Coupe Stanley aux Maple Leafs, mais je me dis, il y a peut-être un déclic qui va se faire offensivement avec les gros canons. Puis, comme je reviens au gardien, mais il faut que la série se joue avec les gros canons et non pas devant le filet, parce que sinon, c'est clairement l'avantage des Blues.
Ta prédiction?
Je vais y aller avec un Maple Leafs en 7. Ouais,
je vais y aller avec Bruins en 7.
OK. Ouais. Tu vois, t'es pas si confiant toi non plus. Là.
Non, 7, je suis aucunement...
Non, c'est quand tu y vas en 7 parce que tu t'es pas sûr.
Non, c'est exactement ça, mais c'est deux équipes qui ne sont pas parfaites. Qui ont des. Puis je ne sais pas comment cette équipe-là va réagir, les Bruins, sans Patrice Bergeron au centre sans l'expérience de David Krejci. Mais je vais dire en 7. Hurricanes Islanders, bon, ça recommence comme l'année dernière, les deux équipes, c'était frotté. Puis les Canes avaient été chauffés. Ça s'était terminé en 6, mais les Canes, tu sais, les Islanders, c'était pas assez près. Bon, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Le pont de la Hudson. Non, pas la Hudson, l'autre rivière.
C'est un tunnel. Ah non, mais là, de l'autre côté.
Non, la rivière Hudson, mais oui, ça, c'est celle avec le New Jersey. Celle avec Long Island. Ouais, non, mes excuses, j'ai un blanc sur la rivière. Beaucoup d'eau qui a coulé là, du côté de Long Island sous les ponts.
Il y a beaucoup d'eau autour de Manhattan.
Il y a beaucoup d'eau autour de Long Island, point. Mais bon. C'est une équipe qui est différente, pas par son noyau, pas par ses joueurs, mais par son entraîneur derrière le banc, Patrick Roy. On le sait, c'est un motivateur. Patrick Roy compte une équipe de vétérans, une équipe qui, si elle suit le style de jeu qu'elle avait lors des dernières années, s'est rendue en finale d'association deux fois. C'est une équipe qui est moulée pour les séries, même si parfois ça fait que tu passes proche des ratés parce qu'en saison, c'est plus difficile parce que c'est pas le même style de jeu. Donc, tu as tout ça, mais d'autre part, tu as peut-être la plus grosse puissance de la Ligue que sont les Hurricanes de la Caroline. Donc, gros duel. Je veux savoir, quand tu regardes c'est les Hurricanes là, qui cognent à la porte depuis plusieurs années, cette année, est-ce que c'est leur meilleure édition?
Je pense que oui. Sais-tu pourquoi? Parce que les Hurricanes, ce qui leur manquait, à mon avis, à mon humble avis, c'était un gars qui peut faire la différence en série éliminatoire. C'est une équipe, tu sais, souviens-toi, en finale de l'Est l'année dernière contre les Panthers, ils sont tombés éteints complètement. Ils ont été balayés, ils ont marqué à peu près, je ne me souviens plus combien de buts, mais vraiment pas beaucoup.
Ça, c'est la série où Ketchuk sortait de la patinoire tout de suite après avoir compté.
Ouais.
Hein, c'est...
ouais, exactement.
Chaud, man.
Ouais, exact. Non, mais je trouve qu'ils ont tout le temps manqué un peu ce joueur-là capable de faire la différence. Puis là, cette saison, ils l'ont avec Jake Gensel. Ils vont aussi avoir un Andrei Svechnikov en santé, ce qui n'était pas le cas l'année dernière.
Qui n'était pas là, il était tout simplement pas là.
Il était tout simplement pas là, oui, c'est ça, ouais, c'est ce que je voulais dire. Merci de préciser.
Ça fait plaisir.
Donc là, on a vraiment, je pense, des joueurs qui peuvent faire la différence dans la formation, ce qui manquait à l'équipe. Donc, ça va être... T'sais, ça va être difficile de les vaincre. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a quatre trios. Les Hurricanes pompiers, ils roulent quatre trios, puis c'est un après l'autre, puis chaque trio peut marquer. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça en séries éliminatoires présentement. Avec les Panthers, je pense que c'est peut-être l'équipe la mieux bâtie pour les séries. Pis je veux dire, défensivement, Nick, est-ce que ça... Je te pose la question, c'est-tu la meilleure défensive de la Ligue nationale, les Hurricanes?
Oui.
Écoute, avec Slavin, Pêché, Shea...
Ils ont peut-être pas le meilleur défenseur, mais je pense que c'est l'équipe qui est la plus fatigante à affronter de A à Z durant 60 minutes. Là. Ou 65, donc, moi, ou 70, ou 80, ou 90, selon les savants en prolongation. Là.
C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Donc là, tu as cette défensive-là qui est, à mon avis, la meilleure ou une des meilleures de la Ligue nationale. Tu as deux joueurs qui peuvent faire la différence entre Gensel et Svechnikov. Et Gensel, à quel point, on n'en a pas parlé, mais à quel point son adaptation s'est faite sans aucun problème en Caroline. C'est, j'ai rarement vu un joueur aussi bien s'adapter. Donc,
25 points en 17 matchs. Là.
Exactement. C'est pas rien, là. Souvent, c'est ça le problème des équipes qui font des grosses acquisitions à date limite des transactions. Leurs joueurs n'ont pas le temps de s'adapter. Ça fait un peu pouet-pouet en séries éliminatoires, mais là, pas l'impression que ça va faire pouet-pouet avec Gensel en série. Donc, ça va être toute une commande pour les Islanders. Je pense pas qu'ils vont passer les Hurricanes.
T'en as parlé aussi, mais bon, t'as nommé les défenseurs. C'est peut-être aussi l'année de la dernière... Je veux pas dire dernière chance, là, mais pour avoir peut-être un recul au niveau de la qualité de cette équipe-là l'année prochaine, parce qu'on va avoir plusieurs joueurs autonomes. Tara Vinen, Gensel. Bon, Gensel, c'est pas certain qu'il va être de retour. Tu sais, t'as un Martinook qui est un fier guerrier. Puis en défensive, surtout Brady Shea, Brett Pesci, qui vont être joueurs autonomes sans compensation, oui. Ou qui peuvent le devenir, là, à moins qu'on accepte des ententes. Mais on pourra pas signer tout le monde. Donc, tu sais, pour Rod Brind'Amour, là...
Juste compléter. Au terme de la saison prochaine, t'as Orlov, Slavin puis Burns. Fait que là, t'as ta brigade défensive au complet à rebâtir en deux saisons. Donc, je te laisse terminer, mais c'est ça. C'est, la fenêtre se referme tranquillement.
Non, ben, pas se referme, mais au, ce qui est sûr, c'est que tu vas peut-être être capable d'en signer deux sur les quatre là-dedans. Là. Ouais. Après ça, je ne sais pas ce qu'on a dans le dans le bassin d'espoir, là, mais il va falloir qu'on aille chercher un petit peu d'aide là-dessus. Chez les Islanders, ouais. Bonne fin de saison. La surprise, par contre, c'est Semyon Varlamov qui s'est emparé du poste de numéro 1 devant Ilya Sorokin. Patrick Roy, il connaît très bien. Ça sort de nulle part. Si tu m'avais dit au début de la saison que Sorokin serait l'adjoint, je l'aurais pas cru. Mais tu sais, est-ce que c'est d'avoir un gardien qui d'entrer en série éliminatoire avec un gardien qui est hot en bon français de la sorte, c'est un gros atout.
Clairement. Puis tu sais, moi je pense que si les séries éliminatoires commençaient, les séries éliminatoires commencent, je pense que c'est Varlamov qui obtient le départ dans le match numéro 1. Je veux dire, c'est lui. Si les Islanders sont en série, c'est en grande partie grâce à lui. Il a été dominant en fin de saison. Puis j'en parlais avec Jocelyn Thibault la semaine dernière. On a fait une chronique. On a parlé d'à quel point les gardiens auxiliaires ont aidé certaines équipes dans la course aux séries dans la dernière ligne droite de la saison. On a parlé de Nedeljkovic à Pittsburgh. Malheureusement, les Pingouins n'ont pas fait les séries, mais ils ont passé proche à cause de, grâce à Crosby, mais aussi un peu grâce à Nedeljkovic. Et on parlait en particulier de Varlamov. Tu as parlé de la relation qu'il y a avec Patrick Roy. Puis Jocelyn m'expliquait, puis il y avait un très bon point. Il disait qu'un athlète qui connaît son entraîneur, c'est un peu comme une vieille paire de chaussettes. Là. Tu sais ce que l'athlète est capable de te donner dans certaines situations. Tu sais, quand le pousser, quand le retenir. Donc, tu es à l'aise. Autant le joueur et l'entraîneur se nourrissent un peu de cette relation-là. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit avec Varlamov présentement et Patrick Roy. Donc, je pense que c'est les séries. Je pense que c'est Varlamov qui va obtenir le départ dans le match numéro 1. C'est surprenant parce que, bon, Ilya Sorokin, en début de saison, on le voyait. Je veux dire, il y avait des gens qui le considéraient comme finaliste potentiel au Trophée Vézina. Il n'a pas eu la saison escomptée. Donc, effectivement, Varlamov, si ça se poursuit sa fin de saison, peut voler une série, on ne sait jamais. Même si je pense que les Hurricanes vont gagner ça
et,
assez facilement.
Et dans l'autre cas, tu as deux gardiens qui fonctionnent à plein régime en Frédéric Anderson et Piotr Kochetkov. Sanderson devait se blesser, Kochetkov est là. Donc, ta prédiction?
Oui. Ma prédiction, ça va être les Hurricanes en 6.
On parle le même langage, mon Hugues. On s'en va dans l'Ouest et honnêtement, dans l'Ouest, là, au niveau de nos prédictions, là, prenez surtout pas... Allez, si vous pariez sur le sport, écoutez-nous pas parce que je ne sais pas. Je regarde ces séries-là et ça va être... La folie dans l'Ouest, j'ai l'impression que l'équipe qui va sortir de l'Ouest cette année va tellement être épuisée qu'elle va casser en finale parce que c'est les duels qu'on va avoir cette année, là, c'est assez impressionnant. C'est des équipes qui sont relevées. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais duel. Je vois pas une équipe incapable de l'emporter comme c'est le cas dans l'Est.
Ben, écoute, avant qu'on rentre dans les séries, mais je veux dire, les 8 équipes en série éliminatoire vont avoir atteint ou presque le plateau des 100 points. Là. Donc, c'est du calibre solide, comparativement à l'Est où il y a des équipes en série comme les Capitals qui ont terminé avec 91 points. Là. On n'est pas dans le même registre. Là.
Première série dans l'Ouest, les Stars de Dallas qui affrontent les champions en titre de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Pas leur premier affrontement, là, ces deux équipes-là. On se souvient, c'est une revanche de la finale de l'Ouest l'année dernière, mais on s'était affronté aussi en 2020. La question, Hugues, est-ce qu'on va être capable de défendre notre titre chez les Golden Knights?
Ben, moi, je pense que les Golden Knights ont quand même encore une très bonne équipe, une équipe capable de faire du dommage, une bonne brigade défensive. On a encore de la profondeur. Puis on sait que c'était un peu ça la force des Golden Knights en série éliminatoire l'année dernière. Bon, t'avais quand même Jack Eichel, Jonathan Marchessault qui était exceptionnel en série, mais t'avais un bon 3-4e trio, des gars capables de des gars fatigants capables de faire la différence, marquer des buts importants dans des matchs. Moi, je suis juste déçu. Pas déçu, mais je trouve ça fou que les Stars et les Golden Knights s'affrontent en, en première ronde, se dire qu'une de ces deux équipes-là passera pas la première ronde, je trouve que c'est peut-être un peu injuste, mais bon, en même temps, les Golden Knights n'ont pas eu une saison des hauts et des bas, donc ils sont un peu là où ils méritent. Là, ils n'ont pas été aussi dominants que l'année dernière, donc là, évidemment, c'est avec le format des séries actuelles, c'est ça qui arrive.
Les Stars, il y a tellement de profondeur chez les Stars. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de profondeur, l'équipe la plus complète de la Ligue nationale en ce moment. On a ajouté Chris Tanev à la défense, qui est un excellent ajout, mais c'est le seul ajout qu'on a vraiment fait du côté des Stars. Par contre, on a ajouté Matt Duchesne en début de saison. Logan Stankoven s'est joint à l'équipe en cours de campagne. Là, eux autres, ils sont déjà dans le moule, tu comprends? C'est pas comme d'autres joueurs qui sont arrivés à la date limite et qui doivent se mettre au diapason du reste de l'équipe. Donc, c'est une équipe qui fonctionne déjà très bien. On a terminé l'année en force. Quand je regarde cette équipe-là, je vois pas cette profondeur-là. Je vois pas le même type de profondeur chez les Golden Knights. Surtout, là, que l'état de santé de certains, là, bon, c'est un refrain qui revient toutes les années là, chez les Golden Knights. Le prochain couplet, c'est de savoir qui va soudainement revenir à la vie après 3 jours. Là, la résurrection après 3 jours, là, sortir de de son... Pas de sa tombe, là, ou peu importe de son... mais c'est ça, C'est la réalité, c'est juste que je pense que... Puis quand tu as joué autant de matchs que les Golden Knights l'année dernière, à un moment donné, ça finit par te rattraper. On sait à quel point c'est difficile de gagner la Coupe cette année, 2 années de suite. C'est pas arrivé souvent dans les 3 dernières décennies. Quand je regarde ça, et quand je regarde devant le filet, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais Jake Oettinger, pas la meilleure saison, mais ça reste un des bons gardiens de la Ligue. Là, on n'est même pas certain. Ça va être Adonis, ça va être Logan Thompson. Oui, c'était ça aussi l'année dernière chez les Golden Knights. C'est absolument vrai. On ne savait pas plus. C'est qui? C'est Laurent Brossois qui avait amorcé les séries éliminatoires avant de se blesser. Puis c'est Adonis qui avait pris la place. Puis, pour vous dire, il n'est plus là, Brossois. Donc, on n'a même pas tenté de le garder au terme de la saison. Donc, quand je regarde tout ça, je ne peux pas voir, malgré la qualité de leur défensive, la qualité du système, je ne peux pas voir les Golden Knights passent à travers les Stars.
Non, moi non plus. Je pense que ça va être serré, mais les Stars, tu l'as dit, je pense que c'est vraiment l'équipe la plus complète. Là, de haut en bas, là, je pense que c'est l'équipe la plus complète. Tu as des excellentes défensives comme celle des Hurricanes, mais les Hurricanes sont quand même complets, mais les Stars ont le petit quelque chose de plus. Les joueurs offensifs, Robertson, Rupe Hintz, Joe Pavelski, un bon vétéran. Puis t'as même des gars qui sont rendus un peu plus dans l'ombre, mais qui sont encore vraiment, qui excellent encore, des Jamie Benn. Jamie Benn est toujours super bon en séries éliminatoires. C'est un gars qui atteint un autre niveau en série. Des Tyler Seguin aussi. Tyler Seguin qui a eu une bonne saison après des ennuis de santé qui l'ont vraiment ralenti dans les dernières années. Donc t'as vraiment... Je trouve que tu as un beau mélange de joueurs de talent, de joueurs de robustes avec bâti pour les séries. Tu as des jeunes. Donc, tu sais, c'est vraiment difficile, je trouve, d'aller contre les Stars. J'ai sûrement déjà dit, mais j'avais mis les Oilers en finale de la Coupe Stanley avant la saison, mais j'ai pas le choix de dire que si je peux changer, je mettrais peut-être
les Stars.
Sont beaux à voir, les Stars.
Non, exactement, exactement. Donc, ta prédiction pour cette série-là?
Une longue série qui va se finir en 7. Puis, les Golden Knights, faut pas les négliger. Ils ont encore des bons éléments, ils ont de la profondeur. Je pense qu'ils vont donner du fil. Les Stars vont sortir quand même amochés de cette série-là. Ça va se finir en 7, mais les Stars vont l'emporter.
Je vais dire les Stars en 6. Écoute, il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe-là. On n'a même pas parlé de Wyatt Johnston.
Non, c'est ça. Le seul point que je vois...
On n'a pas parlé de Wyatt Johnston. On a-tu parlé de Thomas Harley, qui est probablement le défenseur qui a le plus progressé dans la Ligue cette année? Ice Cannon, je pense que t'en as glissé un mot, là, mais bon... Essel Lindell est sur la troisième paire.
Le seul problème que je peux peut-être entrevoir, c'est justement un gars comme Harley, puis même là, il a quand même un peu d'expérience, mais tu sais, même un gars comme Harley ou un gars comme Stankoven ou Johnston qui, là, en séries éliminatoires avec la pression puis tout ça, pas s'écroulerait, mais ralentirait offensivement. Mais il y a tellement de vétérans autour d'eux pour les épauler puis les transporter que je vois pas ce scénario-là arriver.
Puis on a peut-être appris de notre élimination l'année dernière aussi. Hein. C'est sûr qu'on a pris des notes. Prochaine série, Hugues, les Oilers d'Edmonton contre les Kings de Los Angeles. Troisième année de suite que les deux équipes s'affrontent. Là, on commence à... On va saillir, là, disons-le. Ça ne sera pas très long que la rivalité va s'installer. On se souviendra, les Oilers ont emporté les deux premières fois 4-3 en 7 matchs la première année en 2022 puis en 6 matchs en 2023. Quand tu regardes cette équipe-là des Oilers, est-ce qu'on a enfin mis une équipe sur la table qui a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout?
Ben écoute, en début de saison, j'avais prédit que les Oilers iraient jusqu'en finale de la Coupe Stanley, donc je ne vais certainement pas aller à l'encontre de ça. Je vais dire que oui, on a clairement une équipe pour aller jusqu'au bout. Quand tu as McDavid et Draisaitl dans ton équipe, tu peux aspirer à la Coupe Stanley à chaque année. Là. Je pense que je te sors pas un gros, une grosse nouvelle en disant ça. Par contre, j'ai toujours été... J'ai toujours trouvé que les Kings, c'est une équipe qui est bien bâtie pour contrer les Oilers. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens des matchs de série. C'était tout le temps serré. C'était jamais facile pour les Oilers contre les Kings.
Oui, puis tu regardes aussi, on le sait, c'est quoi la tactique principale? C'est d'isoler McDavid et Draisaitl. Il y a d'autres joueurs, mais il reste que si tu isoles ces deux-là, ou si tu les forces à tout faire le travail, là, parce que ça aussi, on l'a vu dans les dernières années, c'est comme ça que tu vas réussir à rivaliser avec eux. Puis oui, effectivement, les Kings ont un style de jeu qui est intéressant. T'sais, on l'a vu cette année, on n'accorde pas nous aussi beaucoup de tirs au but, les Kings. Donc, ça devrait aider. Mais je ne sais pas si ça va être assez. Parce que je regarde cette équipe-là, les Oilers, il y a une progression solide de Zach Hyman. En défensive, Evan Bouchard, c'est la même chose. C'est un Mathias Ekholm qui... Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point Mathias Ekholm est important pour cette équipe-là. Depuis le temps qu'on disait que ça prenait un défenseur stable, solide pour les Oilers, on l'a, Mathias Ekholm. Puis Stuart Skinner, bon, va avoir une année d'expérience aussi en séries éliminatoires. Je pense que ça peut être assez important. L'année dernière, tu te souviendras, ça avait été plutôt difficile. Jack Campbell était venu prendre la relève, là, je pense, trois fois là, sur quatre matchs là, à la fin de la série. C'était contre les Golden Knights, là, Oui, c'était contre les Golden Knights. Donc, va avoir ça derrière la cravate, cette expérience-là. Donc, je pense que les Oilers, à un moment donné, tu veux percer, tu veux défoncer le plafond. Là, c'est peut-être une année où on va peut-être pouvoir y parvenir. Puis, ça peut se faire quand même facilement contre les Kings parce que les Kings ont connu une saison avec gros début de saison. Après ça, une catastrophique descente aux enfers qui a coûté le travail à Todd McLellan. Là, tu vas avoir un duel d'entraîneurs recrues, hein, Chris Knobloch contre Jim Miller. Ça va être intéressant. Bon, ça peut jouer un rôle aussi là, quand tu n'as pas ces notions-là là, de comment combattre quand tu fais face à un système ou à des situations que tu n'es pas habitué en séries éliminatoires. Mais quand je regarde ça, écoute, je sais pas. Toi, tu vois chez Kings, tu vois-tu une piste de solution chez les Kings, peut-être au niveau de la profondeur? Moi, je pense que ça va prendre de la production au niveau ce qu'on appelle la production secondaire, les deux, troisième, quatrième trio chez les Kings.
Ben oui, tu as parlé d'isoler McDavid et Draisaitl. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais en début d'intervention sur cette série-là, mais je trouve que les Kings ont un style bâti pour contrer les Oilers. On a des centres défensifs qui sont capables de les affronter, McDavid et Draisaitl, qui sont capables de les contenir. Ils l'ont prouvé dans les dernières saisons. Tu as André Kopitar qui a pu, sa réputation est plus à faire en termes de d'efficacité défensivement. Tu as un Philippe Dano qui est toujours super bon en séries éliminatoires, toujours fatigant à affronter. Je me souviens, toi, quand il jouait avec les Canadiens, les autres équipes, les gros canons des autres équipes n'aimaient pas ça jouer contre lui. Ça va être pareil pour McDavid et Draisaitl. Tu as parlé de Stuart Skinner. Stuart Skinner, c'était effondré contre Vegas l'année dernière. J'ai l'impression que les Kings, c'est peut-être une équipe qui peut faire bien paraître Stuart Skinner parce que, bon, c'est pas toujours l'équipe la plus dominante. Les Kings, j'aime dire qu'ils ont fini la saison avec... Tu savais jamais à quelle équipe tu allais avoir droit quand les Kings jouaient. Ouais. Des fois, c'est une équipe dominante. Tu dis, ils vont aller jusqu'en finale de la Coupe cette année. Puis des fois, c'est une équipe que tu comprends pas ce qu'ils font dans le portrait des séries éliminatoires. Donc là, tout ça est à prendre en considération. Moi aussi, je pense que les Oilers vont les éliminer encore une fois. Mais C'est certain qu'ils vont avoir. Je pense que les Oilers vont avoir besoin de joueurs de profondeur. Les McDavid, Draisaitl vont peut-être avoir de la difficulté contre les centres défensifs des Kings. Puis c'est là où les Oilers, on aurait peut-être besoin d'un. Tu sais, on est allé chercher un Corey Perry, on aurait peut-être besoin d'un Evander Kane.
Ça
Evander
va prendre King. Ça. Ça va prendre des performances de série de la part de ces deux-là. Vrai dire.
Evander Kane, l'année dernière, puis je termine là-dessus, je te laisse la parole, mais l'année dernière, 5 points en série éliminatoire en 12 matchs. Mais l'autre, la saison précédente, 2021-2022, 17 points, dont 13 buts en 15 matchs. On a besoin de ce Evander Kane-là, ce joueur-là fatigant affrontant ses résidents.
Moi, je me demande si Corey Perry peut pas être le grand frère fatigant qui va venir pincer Kane pour le forcer à être meilleur. Ils sont chicanés, hein, d'ailleurs, récemment. Hein? Donc, tu sais, les chicanes de famille, des fois, là, c'est entre frères, c'est pas Hugues, toi, c'est frère, sœur, je me souviens plus, là, mais...
J'ai une sœur.
T'as une sœur, c'est pas différent comme dynamique, mais moi, je peux te dire que dans ma famille, mon frère, là... Quelques bonnes petites tapes de temps en temps, ça replaçait tout le monde avant d'aller souper. Alors, c'est ça. Mais bon, tout ça, quand on dit, je regarde, puis je pense que les Oilers vont quand même aller gagner cette série-là. Je vais dire en 6.
Moi aussi, je vais dire les Oilers en 6.
Passons maintenant avec, pour la série entre les Canucks de Vancouver, qui ont terminé deuxième dans l'association, et les Predators de Nashville. Bon, chez les Canucks, on le sait, Thatcher Demko n'était pas là en fin de saison. Ça a peut-être un peu brouillé les cartes. Ça leur a peut-être coûté même le championnat de... Peut-être même le trophée des présidents, parce qu'on était dans la course jusqu'à la fin. En son absence, on a eu une fiche 7-5-2. Donc, normalement, les Canucks ont joué meilleur que ça cette année. Mais on regarde cette équipe-là des Canucks. Bon, premièrement, il y a eu le système, l'arrivée de Rick Tocchet qui a vraiment mis en place un bon système. Les joueurs ont travaillé cette année. On a presque à peu près tout le monde augmenté, amélioré sa production. Mais c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires. Quand tu regardes l'ensemble, quelques parcours ici et là, mais c'est pas, ça ne déborde pas. Alors que je regarde les Predators, Hugues, t'as Ryan O'Reilly qui a gagné la Coupe Stanley. T'as un Philip Forsberg qui est allé en finale de la Coupe Stanley. T'as Ryan McDonagh qui a gagné la Coupe Stanley. T'as quelques joueurs qui ont de l'expérience qui vont être... qui sont des joueurs taillés pour les séries. T'sais, Ryan O'Reilly, là, ben quoi, avait gagné Conn Smythe là, d'ailleurs. Là. Ryan McDonagh, c'est le même type. T'as un Roman Yuzi. Predators là, peuvent entrer avec la deuxième portion de saison qu'on a eue. Rentre en série éliminatoire à pleine vitesse.
Oui, rentre en série éliminatoire avec le vent dans le dos. Il y avait toute une séquence. Là. C'était quoi? C'était à la fin du mois de
15
mars.
15 ans. C'était comme...
C'était spectaculaire.
C'était comme 14 à 15 là, ou quelque chose comme ça. Là.
C'est ça. Les séries auraient commencé là. Là, j'aurais pas voulu les pogner, les prédateurs, parce que tu veux pas une équipe qui rentre comme ça. Mais effectivement, je pense que l'expérience, c'est un très bon point. C'est un point que j'allais amener, moi aussi, pourrait faire la différence pour les prédateurs. Mais j'aime quand même ce que je vois des Canucks. Je veux dire, l'expérience,
c'est
certain que c'est important, c'est une chose, mais je veux dire, je pense que point de vue talent, point de vue équipe complète, je pense qu'on a peut-être un peu plus de munitions chez les Canucks. Bon, on a les gros canons, on les connaît, Quinn Hughes, Elias Pettersson, JT Miller, mais On a un bon petit troisième trio qui peut faire du, tu sais, qui peut être fatigué en série. Les Dakota Joshua, ils ont eu avec Connor Garland, ils ont eu des bonnes séquences pendant la saison, des séquences offensives. Puis il y a Suter, même chose. Tu as Elias Lindholm, ça n'a pas super bien été son arrivée à Vancouver, mais récemment, ça va quand même bien. Il a bien terminé la saison. Puis Elias Lindholm, c'est quand même un centre responsable défensivement, le genre de... T'sais, tu parles de Ryan O'Reilly, mais je veux dire, les Elias Lindholm, c'est un peu le genre de centre responsable qui peut occuper un rôle similaire à ce que O'Reilly, avoir les mêmes qualités qu'un O'Reilly en série éliminatoire. Évidemment, O'Reilly est premier centre des Prédateurs. Lindholm, lui, bon, il n'est pas premier centre chez les Canucks.
Mais ça te prend ça,
de toute
façon.
Ce que je veux dire, c'est que ça te prend un joueur comme ça. C'est exactement ce que je veux dire. Donc, moi, je pense que malgré l'inexpérience, ils ont tous les éléments. De parler de Thatcher Demko, qui revient d'une blessure. Là, il s'agit de voir ce qui est à 100%. C'est faux qu'il soit 100% rétabli de cette blessure-là. Mais parce que de l'autre côté...
J'allais dire, on a d'ailleurs décidé de lui donner des départs en fin de saison pour juste essayer de le remettre sur la bonne voie. Là.
Exact. Puis, parce que de l'autre côté, tu as un UC Saros qui, bon, pas eu une... une, la meilleure saison qu'on la saison qu'on pouvait s'attendre de lui.
On a vu mieux de Saros là, dans les dernières années. Là, ouais.
C'est ça. Sauf que lui, tu sais, on en parlait tantôt, c'était même important, un gardien numéro un. S'il décide qu'il arrête tout, ben tu sais ce qui va se passer. Les prédateurs vont l'emporter. Donc, ça pourrait jouer devant le filet, cette série-là.
Oui, puis je suis curieux de voir un peu ce que Rick Tocchet va être capable de faire avec une. Parce qu'on sait, Rick Tocchet, des séries éliminatoires, là, il est allé une fois, je pense, avec les Coyotes. Même s'il réussissait toujours à aller chercher le meilleur des Coyotes, à un moment donné, tu étais à la limite. Là, il arrive en série. J'ai hâte de voir ce système-là, voir ce qu'il va être capable de faire. L'autre côté, Andrew Brunette, qui, on dirait que, bon, tout ce qu'il touche en saison, ça va bien, là, Andrew Brunette. Là. Ouais, non, mais je crois que ça va être plus serré qu'on pense.
Oui, je pense que
je vais dire les Canucks en 7.
Ouais, moi, je vais dire Canucks en 6, mais tu sais, pas parce qu'une série se finit en 6 que ça sera pas difficile. Moi aussi, je pense que ça va être une série qui va être très serrée, donc, mais Canucks en 6 quand même.
On poursuit avec l'autre série, Jets Avalanche, qui, encore là, honnêtement, prend 25 sous puis lance-le. Là. L'Avalanche, peut-être une fin de saison un peu plus calme. Du côté des Jets, on a terminé ça avec la turbine à fond, pour faire une analogie d'aviation. Quand tu regardes, quand on regarde les deux équipes, je trouve que on a une équipe qui est vraiment, mais vraiment puissante. On dit là. Comment tu disais tantôt, vedette, superstar,
star power.
Voilà, power, ouais. On a vraiment des gros, gros, gros canons chez l'Avalanche. Derrière, c'est peut-être, c'est pas mauvais, là, mais c'est peut-être un petit peu plus faible. Surtout quand je regarde les Jets. Je trouve que les Jets ont vraiment une belle profondeur. Les acquisitions qu'on a fait cette année, ça va être très intéressant. Bon, si on parle des Jets, là, par exemple, là, si Gabriel Velarde est capable de rester en santé, c'est un joueur qui peut jouer sur ton premier trio. On a été chercher Sean Monahan, ça fait quand même du bon boulot. Tyler Toffoli, capable de la mettre dedans. Ce qui fait qu'un Adam Laurie joue avec un Nino Niederreiter et un Mason Appleton sur ton troisième trio. Ça, c'est un troisième trio typique de séries éliminatoires. T'as Connor Hellebuyck, qui est le meilleur gardien de la Ligue, devant ton filet. Josh Morrissey, qui a vraiment bien produit cette année. Tu as un Neil Pionk qui, offensivement, tu as deux bons défenseurs offensifs. Brian Dillon, Dylan DeMello, deux spécialistes défensifs. Tu sais, à part la troisième paire de défenseurs chez les Jets, moi, c'est une excellente équipe. Là, je n'ai pas parlé des gros canons. Je n'ai pas parlé des Kyle Connor. Je n'ai pas parlé de Mark Scheifele. L'Avalanche, quand toi, tu l'évalues, comme on a dit, les gros canons, et là, les questions, c'est qu'est-ce qu'on va voir de Jonathan Drouin en séries éliminatoires. Valérie Nichushkin, Arturi Lehkonen, ces deux joueurs qui, en séries éliminatoires, peuvent être excellents. Ces deux joueurs qui excellent des deux côtés de la patinoire. Mais tu sais, derrière, là, le troisième, le quatrième trio, c'est plus faible, hein, chez l'Avalanche.
Oui, pas le choix de donner l'avantage au niveau de la profondeur offensive aux Jets de Winnipeg. Pas de doute. Écoute, pendant que tu t'énumérais tout ça, Nick, je suis allé voir en 2022, quand l'Avalanche a gagné la Coupe Stanley. Tu sais, juste les joueurs qui sont plus là, puis à quel point ils ont perdu de la profondeur. Bon, tu as Gabriel Landeskog qui est blessé présentement. Tu as Nazem Kadri qui n'est plus là. Tu as Bowen Byram qui a été échangé. JT Comfort qui n'est plus là non plus. André Burakovsky. Donc, c'est juste là, ce que je viens de nommer, c'est quand même des gros joueurs qui, sans être des gros canons, t'apportent tellement de profondeur et peuvent marquer des gros buts. Je vais faire des gros jeux en séries éliminatoires. Donc, effectivement. Profondeur, avantage Jets. Tu as parlé d'Hellebuyck, mais moi, j'ai le goût de te parler d'Alexander Georgiev. C'est ça le principal problème de l'Avalanche. Tu as parlé qu'ils n'ont pas bien fini la saison, mais tu vas voir les chiffres de Georgiev. Il a extrêmement mal terminé la saison, au point où là, on se dit, est-ce qu'il va couler l'Avalanche en série? Est-ce qu'il peut... T'sais, Georgiev, son travail, je pense que c'est pas de voler des matchs, je pense que c'est juste de ne pas faire perdre l'Avalanche en séries éliminatoires. Après, les gros canons, McKinnon, Makar vont s'occuper du reste. Mais là, Georgiev, présentement, fait perdre l'Avalanche et c'est ce qui m'inquiète le plus à l'approche de cette série-là.
Non, je suis vraiment d'accord. Puis on n'a pas. Tu sais, Justus Annenen, ça n'a pas d'expérience dans la ligue.
Ben, ça a quoi même pas 20 games
non,
d'expérience.
Non, c'est ça. C'est bien fait. Difficile. Somme toute, tu as des belles statistiques. Oui, mais je veux dire, c'est pas. T'sais, quand j'évalue une série, je peux pas faire. Oh, Justus Annenen va venir sortir de nulle part puis il va nous sortir un lapin de son chapeau, là.
Puis, tu sais, on parlait tantôt d'Akira Schmid. Akira Schmid l'a fait un peu l'année dernière. Il est arrivé T'sais, a volé une série, mais tu te rends, ça ne sont pas allés jusqu'au bout. Les Devils avec Akira Schmid sont éliminés en deuxième ronde.
Ça a
donc
fini par casser. Là.
Ça a fini par la ballon a fini par éclater. Donc là, je me dis, bon, est-ce que Justus Annunen peut faire ça si jamais ça ne fonctionne pas avec Georgiev? J'ai mes doutes. En tout cas, j'ai mes doutes que l'Avalanche peut aller loin avec ça. Mais quand même, moi, j'ai de la misère à... C'est un peu comme Sidney Crosby. J'ai de la misère à parier contre Nathan MacKinnon. C'est le point où je voulais en venir. T'sais. Tu me parles de profondeur, effectivement, devant le filet, ça va pas très bien, mais je suis pas capable de parier contre Nathan MacKinnon. C'est le gamer ultime, le joueur, quand ses résumatoires va lever son jeu d'un cran, lui qui a déjà été dominant cette saison en plus. Ça va être serré, mais je vois quand même le L'Avalanche, je pense, sortir gagnant cette série-là.
On se souviendra que l'Avalanche a été éliminée en première ronde l'année dernière contre le Kraken, mais on arrivait d'une conquête de la Coupe Stanley. On avait été amoché. La saison avait été... On avait terminé premier dans l'Ouest, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble, mais ça avait tout pris. Et tandis que là, on n'arrive vraiment pas avec la même vitesse. Non. Là, on a eu le temps de... Écoute, on le sait à peu près où on va terminer. C'est correct pour nous. Mais bon, ça s'est terminé combien cette semaine, les Jets contre l'Avalanche? 7-2?
Ben écoute, 7-0? Ça s'est terminé 7-0. C'est un des points que je voulais apporter, c'est qu'on dirait que tout dans cette série-là fait en sorte qu'on pencherait pour les Jets, c'est la profondeur, le gardien, puis les duels cette saison, les Jets ont dominé l'Avalanche cette saison. Fiche parfaite de 3-0, ils ont inscrit 17 buts contre le Colorado, ils en ont accordé seulement 4. Là, tu te dis, tu regardes ça, mais
c'est
une nouvelle saison.
Mais c'est ça. C'est-tu comme dans Bugs Bunny, Coyote qui mettait des pièges puis il se rive la face une couple de fois, tombe dans le précipice, mais rendu en séries éliminatoires, finalement, le Coyote va le pogner le Roadrunner.
Ouais, mais c'est... Non, c'est ça. Je pense que ouais. Je suis juste pas capable,
T'es pas capable de
parier contre Nathan MacKinnon, tu sais, qui... à mon avis, va remporter le trophée Hart. Et là, on peut se lancer dans un débat sur le trophée Hart.
On n'a pas le temps. Regarde l'heure.
Exact. Mais tu sais, reste que il est quand même à tout le moins dans les candidats très sérieux à ce trophée-là. Donc, je me dis, je suis pas prêt à parier contre lui. Puis, tu as parlé d'expérience tantôt en parlant des prédateurs de Nashville. Je pense que l'expérience de l'Avalanche va faire la différence.
On n'a même pas dit le nom de Cale Makar, on n'a même pas dit le nom de Mikko Rantanen dans tout ça.
Exactement.
Tout ça. Donc, toi, Avalanche?
Je vais y aller avec l'Avalanche en 6.
Gars, je vais tenter le diable puis je vais dire Jets en 7.
Ouais,
je vais le tenter parce que c'est une sacrée bonne équipe. Puis en 6 éliminatoires, peut-être que la profondeur. Je vais juste miser sur la profondeur des Jets versus toi qui mise sur, avec raison, Nathan MacKinnon. Ben écoute, Hugues, allons-y pour terminer le tout, nos prédictions. Tu t'es avancé, je pense qu'on connaît déjà ta finale, mais je veux t'entendre. Qui vois-tu gagner la Coupe Stanley?
Ben écoute, j'avais dit finale Rangers-Oilers avec une Coupe Stanley Oilers avant la saison. Donc pour être conséquent, je vais dire finale Rangers-Oilers et la Coupe revient au Canada pour la première fois depuis 1993. C'est l'année des Oilers.
Sous toute réserve, je crois que j'avais dit une finale Hurricanes-Stars et je garde cette prédiction.
C'est une excellente prédiction.
J'avais dit les Hurricanes, champions de la Coupe Stanley, et parce que ce que j'ai dit tantôt, que je pense que l'équipe qui va sortir de l'Ouest va tellement être maganée, je vais garder la même prédiction. Je vais dire les Hurricanes. C'est enfin l'année où tout tombe en place pour les Hurricanes. Donc, ça va être... écoute, ça va être solide. Honnêtement, Hugues, j'ai hâte que ça commence. Ça commence, bon, ça commence samedi. Les deux premiers matchs samedi. Par la suite, ça se poursuit dimanche, bien évidemment. Donc, chers auditeurs, suivez le tout, bien évidemment, sur lnh.com. Vous allez pouvoir... on a nos collègues, GF et Guillaume, qui sont sur la route. On va avoir des textes de tous nos correspondants à travers la Ligue qui vont vous renseigner là-dessus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Instagram, Threads et X. On embarque dans la grande danse du printemps. C'est un beau passage. Écoute, on avait hâte. Hein? Hugues,
Moi, c'est le moment de l'année.
Fait un mois qu'on compte les jours, sur le calendrier au bureau, on fait des X, là, comme un chemin de croix. Là, on a
ouais, puis là, là, je t'explique ce qui va arriver, Nick. C'est que là, moi, je suis nouvellement papa depuis six mois. Mais là, il va falloir que je me couche tard. Là, les matchs de l'Ouest, je vais regarder ça. Fait que là,
on salue.
J'aurai pas beaucoup de sommeil dans les prochaines semaines, je te le confirme.
On salue Émilie, sa patience qui sera mise à rude épreuve. Si les gens pouvaient voir le visage que tu venais de faire. Donc, suivez-nous. Et hey, prochain, les balados, ben écoutez, on va essayer normalement de faire ça entre chaque round. Donc, suivez-nous. Là, peu importe où vous écoutez les balados, suivez-nous pour être certain de rien manquer parce que ça risque d'aller rapidement. On sera pas tous les mercredis. Donc, suivez-nous. Hugues, merci encore d'avoir été là aujourd'hui.
Yes, merci Nick.
On va se reparler probablement dans le prochain balado, on verra bien. Merci à JF, merci à Guillaume qui était là aussi plus tôt dans l'émission. On va leur parler aussi dans les prochains balados. Et bien sûr, merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.